Bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre. Alors aujourd'hui, je reçois le blogueur star, Seb Musset. Salut Seb.
Salut Stéphane.
Alors en forme ?
Bah écoute, très bien.
Alors tu tiens le fameux blog éponyme, on va dire, hein, puisque c'est ton nom de scène et ton nom de blog, sebmusset.com. Hein,
non, sebmusset.net.
Point net maintenant ?
Ah, ça a toujours été
point net. Ah, ça a été point net. Oui, évidemment, tu es anti-commercial, toi.
Non, c'est un hasard complet.
Ça n'a rien à voir.
Mais j'ai lancé celui-là.
Alors, on va quand même rappeler qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu tiens ce blog depuis un bon moment, depuis au moins 2008, si ce n'est avant, 2007.
2007,
donc c'est quand même assez vieux. Tu as écrit pas mal de bouquins aussi, d'ailleurs, qui sont des compilations notamment de tes posts.
J'écris deux romans et un recueil. Le dernier, c'est un recueil. Là, j'en prépare un autre.
Ouais. Les endettés, c'est ça, le recueil ?
Ouais.
Pas mal. Il y a tout dedans, avec une belle chaîne. Et d'ailleurs, tu... À un moment donné, c'est pas toi qui t'avais montré qu'une affiche de film, je crois, reprenait le concept.
Ah, oui, non, ça...
c'est pas ça.
Donc, c'est un truc que j'ai observé, non, ouais, c'était la pochette du teaser du film de Tarantino, comment il s'appelle, Django
ouais.
Unchained.
Ouais.
Le teaser, hein, pas l'affiche finale du film, en fait, le teaser qu'il y avait dans les salles de cinéma était la reprise de la pochette de mon bouquin. Mais bon, c'est...
C'est un hasard,
je pense que c'est un hasard, complètement, ouais. Mais c'est rigolo, quoi.
Ouais, enfin, ouais, bon. Et alors, et on va rappeler aussi quand même que ton cœur de métier, ton expertise aussi, c'est la vidéo. T'es quand même un vidéaste, tu as fait beaucoup de vidéos, des films, tu as produit des films, tout seul, je crois, d'ailleurs. Mmh. Et tu as fait aussi beaucoup de vidéos, on en a fait ensemble aussi, d'ailleurs, et on avait interviewé d'ailleurs des politiques.
Exact.
Hein, pour le dividende universel.
Exactement.
Franck Marguin du Parti chrétien. On avait vu aussi.
On a vu.
Corinne Morel-Darlieu du Front de gauche.
Et tu m'as fait rencontrer les gens d'Alternative libérale. Et...
Oui, comme ça on a vu le spectre. On a vu à gauche.
Ah, ça, on a vu le spectre.
On a vu le spectre un peu politique et ouais, des gens qui s'intéressaient au concept en tout cas et qui en parlaient. Alors, on va pas reparler de ça en particulier aujourd'hui, mais on va s'intéresser plutôt à tes thèmes de prédilection sur ton blog. Bon, alors, ton expertise n'est pas particulièrement sur la monnaie, mais tu t'intéresses quand même à l'économie. Et en particulier, un thème qui t'est cher, puisque tu l'as repris beaucoup de fois depuis 2007 sur ton blog, c'est le problème du logement. Et j'ai presque envie de dire la perception que tu as eue, parce que tu l'as quand même analysé assez bien, d'une grande différence générationnelle quant à l'accès au logement. Entre, disons, les plus âgés d'entre nous en France et les plus jeunes, où il y a vraiment un gap quoi, de différence, et une analyse générale sur les prix du logement qui sont vraiment excessifs.
Bah c'est plus, enfin moi, c'est plus, c'était pas une, c'est parce que j'étais confronté, en fait, hein, c'est pas une analyse, c'est parce que je l'ai vécu, hein, ça fait, j'ai, pendant 7 ans, même 10 ans, quoi, j'ai galéré pour me loger, quoi, que ce soit en province ou à Paris, et spécialement à Paris, parce que ça a été vraiment, les 5 dernières années, c'était vraiment très dur. Mais j'ai observé à peu près le même schéma à peu près partout, quoi. C'est une préemption des endroits où on travaille, ou des endroits d'activité par une classe, plutôt des personnes plutôt âgées, enfin par la génération au-dessus de nous, en fait.
Donc là, on n'est pas en termes de classe, je dirais, sociale, mais plutôt classe générationnelle, en fait.
Ouais, c'est un peu ce que j'ai constaté, oui, parce que c'est... Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui bosse, là on voit l'exemple à Paris, c'est assez frappant, puisque tu as des boutiques, donc les gens qui bossent dans les boutiques à Paris, les vendeurs, les managers de boutiques, enfin bon, les mecs de, je sais pas, les stagiaires qui ont entre 20 et 30 ans. Bon, à part quelques étudiants qui sont logés, justement, à prix pas possible dans des chambres de bonne à des tarifs prohibitifs, les autres se tapent 1h30 de transport, voire 2h de transport, parce qu'ils n'en peuvent pas, simplement, ils n'ont plus accès du tout au logement sur la ville.
Oui.
Mais ça, ce processus-là, je l'ai vu, alors à Paris, c'est particulièrement flagrant, mais je l'ai vu ailleurs, dans d'autres villes de province, à une autre échelle. Hein. C'était bien moindre, mais ça se reproduit un peu partout. Quoi.
Et je crois, tu as bien mis aussi, je pense que tu as mis en évidence, tu as fait quelques analyses qui montraient que cette génération-là qui s'est appropriée, disons, beaucoup de l'espace et des logements, notamment, finalement, n'a pas eu les mêmes conditions de vie et d'accès à la propriété que la génération actuelle, en fait, ou que les générations plus jeunes. Il y a quand même une dissymétrie dans la façon que eux ont pu accéder au logement à leur époque et celle qui est aujourd'hui possible.
Ouais, déjà, il y avait une inflation des salaires il y avait une progression salariale qui était beaucoup plus importante dans les années 70.
Qui faisait fondre le montant du prêt.
Voilà, exactement.
À la fin, c'était moins de salaire qu'au début.
Voilà, donc on devenait propriétaire assez rapidement. Il y a une deuxième raison, c'est-à-dire qui est beaucoup plus, on va dire, qui est une conséquence un peu de. J'utilise les gros mots du libéralisme, c'est que le logement est devenu vraiment, ces 20 dernières années, je date ça à peu près à la fin des années 90, enfin au milieu des années 90, après la première, après la chute des prix, c'est devenu vraiment une marchandise, un truc de spéculation.
Ouais.
Ce n'était pas le cas avant, quoi, je pense pas.
Moins, en tout cas.
C'était moins.
Ouais.
Et le problème, c'est que dans cet esprit-là, c'est-à-dire que tout le monde a voulu jouer au casino immobilier. C'est-à-dire que c'est, et donc aussi bien la vieille génération, nos aînés, que des gens de mon âge. Ouais. Mais à la différence, c'est que les gens de mon âge n'avaient pas du tout le même apport, n'avaient pas du tout les mêmes salaires.
Ouais.
Les gens, ils n'avaient même pas du tout d'apport, en fait.
Ouais.
Et bon, après ça, il y a eu plusieurs mécanismes qui font que. Bah la génération d'au-dessus a plutôt vu ça d'un bon oeil parce que ça valorisait ses propres biens, c'est-à-dire que les jeunes s'endettant, les prix montaient, donc la génération d'au-dessus pouvait s'acheter une maison secondaire, pouvait racheter plus grand, enfin voilà, tant que ça monte, ça va, quoi.
Ouais. Jusqu'au jour où on a tout pris.
Et le problème, moi j'avais rien contre ça, simplement quand t'as 30 ans et que tu veux pas spécialement, que t'es absolument pas sûr, t'as aucune visibilité professionnelle, que tu sais pas, t'as jamais signé de CD de ta vie, que tu sais pas où tu seras professionnellement dans 6 mois, je vois pas très bien comment tu peux t'endetter sur 20-25 ans.
Ouais.
Et ça, quand tu le disais, il y a 6-7 ans, t'étais vraiment quand je disais ça dans mon entourage, on me regardait vraiment avec des yeux ronds, quoi, parce qu'on me disait ça va monter, machin, ça peut que monter. Je dis ok, faites comme vous voulez, quoi, mais pour moi, c'est pas. J'aime pas être endetté, c'est le titre de mon bouquin, mais là, c'est même plus d'endettement, parce que là, c'est un truc, c'est pour acheter un 3 pièces, tu vas mettre une vie pour le rembourser. Quoi.
Ouais. Donc, si les conditions restent à l'identique.
Et en plus, voilà. Ouais. Après ça, les mecs, le nouveau truc après ça, donc c'était de. Non seulement il y a eu cet esprit de jouer au casino immobilier, plus on veut récupérer la mise tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de frénésie, une sorte d'hystérie au début du siècle, où on achète, 3 ans après on revend, on reprend un autre truc, enfin, ça devient un truc, Et tout ça. Pourquoi pas ? Je n'ai rien contre. Hein. Le problème, c'est que c'est devenu. Moi, je pense que l'immobilier en France. J'ai pas fait d'études, d'analyse là-dessus. J'ai pas de chiffres, mais je pense que ça portait plus ou moins le moral des Français et plus ou moins l'économie pendant quelques années supplémentaires, parce que tout le monde s'est consacré à ça. C'est-à-dire que quand t'es endetté, que tu te consacres. Alors déjà, quand t'es endetté, il faut que tu rembourses. Donc tu mouftes pas au boulot, t'es bien canalisé, t'acceptes tout, tu baisses la tête. Donc ça, c'est une chose. Après ça, tu veux valoriser ton truc, donc t'es constamment en travaux. Donc tu refais ta cuisine, tu refais ta salle de bain, tu refais ton machin. Avec toute l'économie que ça génère, les émissions de télé, le truc.
C'est encouragé, en plus.
Et c'est ça la différence. Je pense que ça, il n'y avait pas ça il y a 20-30 ans. En tout cas, c'était pas aussi... maintenant, c'est-à-dire que la moindre personne au SMIC est dans... être dans cet état d'esprit-là. Quoi.
Ouais. Alors finalement, c'est le principe des bulles spéculatives, c'est-à-dire que ça commence doucement, et puis à la fin, il y a une frénésie, et souvent, c'est le début de la fin d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est à la fois le moment où les prix montent le plus, et puis c'est le dernier baroud d'honneur en quelque sorte. Je dirais que si on comparait ça peut-être au subprime américain, c'est des subprimes un peu au ralenti, ce qui se passe en France. C'est-à-dire que c'est quand même moins rapide que ce qui s'est fait là-bas, donc la chute risque d'ailleurs d'être un peu plus lente.
Ouais, bien sûr.
Mais la chute est toujours rapide, hein. La chute est toujours en général, si on analyse les crises.
Il y a des coins en France, je suis pas à fond je suis pas l'expert immobilier numéro un, quoi, mais il y a des coins en France où déjà ça recule, depuis déjà 2-3 ans, là, il y a des retournements graves. Quoi.
Mais est-ce que tu n'analyses pas aussi ça, au fait, en termes de cause, que c'est aussi dû au fait que la monnaie est injectée dans l'économie sous forme de prêts, justement, la plupart de temps, pour l'essentiel, et que donc ça auto-alimente les bulles, puisque ceci montant, on va accorder des prêts en se disant de toute façon... Ah
bah c'est une façon de quand on en parle assez souvent, le crédit est une façon de créer la monnaie... Donc voilà, c'est
ciblé, quoi.
Voilà, c'est une façon comme une autre, quoi.
Et quand à un moment donné il faut rembourser, qu'on arrête d'en mettre, il y a un moment donné on ne pourra pas rembourser la totalité des prêts, puisque, et en plus les actifs chutent, et c'est là qu'il y a les faillites à la fois des emprunteurs, de certains emprunteurs, pas tous, mais de certains, et la faillite des banquiers aussi. Enfin, il devrait y avoir la faillite des banquiers, mais eux ils sont enfloués par contre. Et tu trouves ça normal? Non.
Ah non, non, non.
Est-ce que tu peux nous rappeler un post, peut-être un titre de post que tu as fait sur ces sujets-là?
Sur l'immobilier, t'en as fait beaucoup. Franchement, j'en ai fait, je sais pas, je vais en faire 200, j'en sais rien. j'en fais moins là actuellement, mais parce que je trouve que la situation est un peu. Non, c'est plus trop où on va. Enfin, c'est. Bon, c'est un retournement, c'est clair, mais. Ouais. Là, je m'occupe plus de Paris, parce que j'habite à Paris maintenant. Donc, à Paris, il reste encore. C'est loin d'être. Même s'il y a un petit retournement, on est tellement dans des prix de folie. Puis il y a tellement une logique, en plus, à Paris, qui s'est mise en place de vraiment de. Moi, je dirais presque de ségrégation sociale. C'est-à-dire que là, clairement, on a dégagé les classes moyennes. Alors, il y a des efforts qui sont faits, quoi, mais on est allé tellement loin dans l'excès qu'avant de revenir en arrière, c'est vraiment un, pareil, en plus, c'est vraiment spécifique, c'est une ville très petite. Mais bon, c'est un vaste débat, Paris. Et Paris n'est pas du tout à l'image du reste de la France.
Oui, Paris intramuros, tu veux dire.
Paris intramuros, oui.
La ville musée.
Oui, c'est une ville musée. Bah, de toute façon, Paris, tu te balades. Je veux dire, c'est une ville, tu te balades, je sais pas, n'importe quel soir à 22h, la majeure partie des quartiers, bon, c'est pas super vivant, quoi. Donc, on voit bien qu'il y a un petit problème, quand même. Ouais. Pour soi-disant une ville lumière, hyper festive et.
Ouais, il y a les bureaux qui ont pris la place.
Ouais,
des
les
gens.
Bureaux, les. Voilà, c'est pas une ville comme. Il y a des coins, hein. J'aime bien Paris, hein, j'adore cette ville, mais. C'est quand même. C'est
un peu moins vivant que ça a pu l'être, sans doute.
C'est une capitale qui n'est plus une capitale humaine, voilà, c'est-à-dire que c'est pas l'homme n'est pas au centre malgré les apparences, malgré les pistes de vélo, malgré voilà.
Alors est-ce que tu vois, alors maintenant pour continuer sur cette bulle, et après on abordera d'autres sujets bien sûr, mais on va continuer sur cette bulle immobilière que tu as bien décrite d'ailleurs. Tu as vécu un peu les années les plus pénibles là, parce que tu as fait j'aimais bien ton titre aussi, c'est chronique. Qu'est-ce que c'était exactement, chronique, tu mettais ton titre avant, chronique
de guerre néolibérale.
Ouais, chroniqueur de guerre néolibérale. J'aimais bien ça.
Ouais,
c'est un peu ça.
Un peu pompeux. Mais...
Ouais, mais c'était pas mal. Ouais, t'as changé, maintenant tout est politique.
Ouais, bah ouais, je parle moins de moi maintenant.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu. Alors, on annonce maintenant une chute de l'immobilier, c'est déjà le cas, il y a au moins une baisse. Et, alors, ce que tu disais, on le retrouve aussi dans ce qu'on appelle. Pour ceux que ça intéresse, cette histoire que les jeunes ne peuvent pas s'endetter, etc. Mais c'est la fameuse courbe de Frigit qui ramène le prix de l'immobilier finalement au salaire moyen, qui en plus a baissé. Alors évidemment, si les prix montent et qu'en plus les salaires baissent, l'écart devient tout à fait astronomique. Et on voit qu'historiquement, c'est une bulle monstrueuse, en fait. C'est-à-dire que l'écart qui a... Alors ceci dit, le problème qu'on peut voir aussi dans cette approche, c'est de penser que peut-être ce qui n'est pas vu, justement, c'est que Paris est aussi sous, je dirais, la menace économique, ou en tout cas sous la, oui, la menace d'achat économique, pas que des Français, mais aussi des Américains, des Russes.
Bah, ça, je l'ai constaté. Voilà. Moi, j'habitais dans un quartier où j'ai vraiment vu, là, à partir des années, début des années Sarkozy, alors, je pense pas que ce soit lié à Sarkozy, hein, mais où j'ai vraiment vu une... les salaires locaux ne pouvant plus soutenir l'offre, et ben en fait, on est passé à un autre mode, c'est-à-dire qu'on est allé chercher les classes moyennes supérieures des autres pays. Et en fait, en Paris, alors là on me dit oui,
elles sont venues toutes seules.
Paris est une ville, quand je dis l'humain n'est pas au centre de Paris, le touriste est au centre de Paris, c'est un peu ça le problème.
Ouais.
Et c'est toute une économie s'est développée là-dessus.
Ouais.
Moi j'ai rien contre, hein, mais le problème c'est que c'est en train de supplanter. Oui, ce que je t'explique, hein, c'est-à-dire que tu vas venir servir des glaces aux touristes et tu vas te taper 2 heures de RER pour ça, quoi.
Ouais.
Et moi, j'ai habité dans un quartier où je l'ai vraiment vu en 3 ans de temps.
Ouais. T'as fait beaucoup de postes là.
Dans le 6e arrondissement, ouais. En 3 ans de temps, j'ai vu le quartier se transformer en hôtel. Voilà, vraiment un truc, c'était avec tous les problèmes que ça peut causer, c'est-à-dire... Donc les mecs qui arrivent, qui font du bruit tout le temps, ils savent pas où sont et où est le local poubelle, enfin, tu vois, qui... un truc donc qui fait que progressivement bon bah toi t'es y a plus de vie de quartier, y a plus rien puisque c'est constamment un truc qui bon alors c'est vraiment caricatural ce que je te raconte mais même si je l'ai vécu hein, parce que j'étais dans un coin vraiment un peu
spécial, un peu central, aussi,
central hein, mais ouais. En même temps ça se développe dans progressivement parce que ça on va dire ça a d'abord été ça a ciblé les classes moyennes supérieures étrangères donc les brésiliens, russes, anglais, américains mais le même mécanisme, parce que c'est tellement juteux, c'est-à-dire que les mecs, au lieu de louer un appart à 25 mètres carrés, 1200 euros par mois, ils vont louer ça, grosso modo,
ce
qui est déjà très cher, ils vont pouvoir le louer ça par semaine, en le transformant en chambre d'hôtel.
Ouais.
Tout ça dans un vide juridique total, alors normalement c'est interdit, mais bon, grosso modo, tu fais ce que tu veux. Mm. Tu peux ne pas déclarer, en plus le proprio garde à disposition de. Il garde un pied-à-terre. Ça s'appelle la pied-à-terrisation.
Pied-à-terrisation. Voilà. C'est pas loin de titrisation. Hein.
Et c'est. La mairie de Paris dit que ça ne représente que même pas 3% des locations sur Paris. Bon. Moi, je trouve que c'est quand même assez. Enfin, j'ai pas de. C'est juste un ressenti. Hein. Mmh. C'est juste que j'ai vu vraiment le phénomène exploser en 3-4 ans.
Intuitivement, les chiffres te paraissent plus gros.
Je peux pas te le dire, mais je pense que c'est quand même, ça représente beaucoup d'argent et de beaucoup de. Le problème, c'est surtout moi, j'ai aucun problème avec ça si ça ne foutait pas les autres personnes dehors, quoi. Mmh. C'est ça le truc.
D'accord. Et alors, et cette chute de l'immobilier, comment tu la vois? Est-ce que tu penses vraiment qu'elle va avoir lieu? Si on résout les crises par l'inflation, bon, dans ce cas-là, on peut supposer que les prix ne baisseront pas, puisqu'ils resteront au niveau de la masse monétaire qui augmente. Mais si ce qui est choisi, c'est la déflation, pour l'instant, c'est un peu le cas, c'est-à-dire prendre plutôt l'argent existant plutôt que d'en rajouter, là, on peut effectivement assister à une chute des prix. Bon, alors comment tu ressens ça? Enfin, je veux dire, est-ce que tu penses que c'est une opportunité, que ça réalise, que ça va se réaliser?
Je parle pas d'opportunité, moi je suis pas du tout dans le. J'ai compte pas d'acheter quelque chose.
Pour ceux qui peuvent pas devenir propriétaires, ça peut être vu comme ça aussi. C'est-à-dire si les prix baissent suffisamment.
Je peux pas te. J'ai pas de vin, j'en sais rien. Je pense que ça ne va. Je vois difficilement comment ça peut monter.
Ouais.
Déjà, il y a des angoisses je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens beaucoup de gens qui devaient acheter ont acheté aussi il y a ça je pense qu'il va y avoir une pénurie de il y a beaucoup de gens qui sont endettés déjà il y a beaucoup de gens enfin moi je sais pas je quand ouais. Autant il y a 5 ans dans les discussions ça parlait beaucoup immobilier on va acheter on va faire ceci on va faire le fameux projet immobilier autant maintenant cette conversation là moi j'entends que des gens qui disent j'aimerais bien vendre, enfin, qui n'arrivent pas à vendre. Enfin,
ouais,
donc,
ouais.
Ça s'est complètement.
Ça s'est inversé.
Donc, ouais. Donc les gens, là, moi je vois surtout des gens qui essayent de se faire une raison, on se dit bah ouais, finalement on n'est pas si mal ici. Voilà, ouais. Et bah ouais, bon bah on va rembourser pendant 20 ans. Et, mais bon, voilà, donc je sais pas comment. Je peux pas te.
Sauf si les salaires baissent, parce que Goldman Sachs a demandé les salaires baissent de
30%
pour en parler.
Là on glisse dans le politique. Mais
justement, c'est une bonne transition.
C'est vrai que moi, une de mes peurs. J'avais fait un billet là-dessus. Enfin, pas une de mes peurs, c'est une de mes. Je le vois arriver gros comme une maison, c'est la baisse des salaires, quoi. D'une façon ou d'une autre, quoi.
Qui sont déjà bas, quoi.
Qui sont déjà bas, mais on va te dire. De toute façon, il y a un moment ou un autre, ils vont devoir absolument ressortir des bons chiffres pour la courbe du chômage.
Mais qui va accepter? Le problème, c'est qu'on ne te demande jamais. Ils se demandent jamais, ou il n'y a jamais, en tout cas, présent sur le plateau, quand ils font des plateaux. Ceux qui tiennent les ondes de l'occupant, parce que moi je les appelle les occupants. Mais oui, c'est les occupants, ceux qui occupent. Alors, donc c'est les occupants. Il n'y a jamais le dire, mais qui va accepter de traverser ce travail-là? Parce que
va accepter, il y a déjà des mecs, le stage, ça fonctionne depuis 20 ans. Moi, je rencontre, quand je vais sur les tournages, je rencontre des mecs de 20 ans qui bossent pour rien, 14 heures par jour, et voilà, je veux dire,
qui va l'esclavage, ça.
Ben oui, mais c'est déjà en place, c'est déjà là. Donc, qui va accepter? Moi, je te dis, c'est... Je pense que, malheureusement, il y a des gens qui vont accepter.
Ouais.
Et
Donc, l'esclavage, finalement, il est possible parce que les gens l'acceptent, finalement.
Ah ben, alors là, on glisse dans la philosophie, maintenant, mais bon, c'est...
c'est pas ça.
Non, après ça, on peut faire des généralités, mais bon, moi je te parle, tu me dis sur la base...
Ça fait passer à la loi Hartz IV en Allemagne.
Ouais, ben, voilà, quoi. Après ça, il y a aussi les formes de chantage. On va te dire, ok, bon, là, c'est ce qui s'est passé avec l'ANI. Hein. On te dit, on te fait signer le machin. Bon, bah là, écoute, t'acceptes de baisser de 10% ton salaire ou de bosser à 500 km, sinon je te vire. Ah ben non, je suis désolé, les syndicats ont signé. Bon, alors, t'as pu essayer maintenant, c'est simplement ça, on t'en a pas parlé nulle part. Enfin, on t'en a pas parlé, on t'en a très peu parlé, parce que il y avait le mariage pour tous, machin, pas qui par ailleurs sont des vrais sujets, hein, mais voilà, c'est-à-dire que c'est un peu passé à l'as, mais voilà, on s'oriente doucement vers ça.
Ouais, mais les gens, ils vont plus arrêter, ils vont arrêter de travailler, parce que tu peux pas travailler sans rien gagner, je veux dire, ça marche pas, ça.
Bah, c'est pas rien, hein. Puis il y a aussi, une fois de plus, hein,
Ça te permet pas,
quand tu gagnes 600, ouais. Quand tu gagnes 600 euros, c'est pas zéro non plus, donc quand t'es vraiment dans la merde, tu vas bosser pour 600 euros, ouais, tu vas... Mais je le vois déjà, tu vois, sur le plein de gens qui sont au chômage à 50 ans, qui acceptent de bosser une heure par-ci, 30 minutes par-là, qui font des kilomètres en bagnole pour aller réparer un lavabo, pour machin, ils sont déjà dans une... on t'a plus le choix, quoi. Donc c'est aussi une façon... Le chômage a été une façon de tirer les salaires vers le bas.
Ouais.
On continue, quoi, la crise.
Ouais, mais il y a un seuil de tolérance qui ne tiendra pas. Parce que quand les salaires sont trop bas, il devient plus intéressant d'aller vivre dans la nature, donc d'aller prendre ce qu'on se fait apprendre, en fait. Le vol, c'est rien d'autre que la liberté de vivre qu'on a envie de vivre, par exemple.
Ce processus.
Le prétendu vol, c'est simplement de se dire, bon, mais finalement... J'ai rien à gagner dans cette société-là, donc je la reconnais pas, je vais prendre ce que je peux prendre. Mmh. Comme l'homme, finalement, qui vit dans la nature, prend ce qu'il peut prendre. Je veux dire. Donc à partir de là, on retourne à un état, je dirais, de liberté sauvage, entre guillemets.
De ce que je suis, je connais 2-3 personnes sur Internet qui ont fait ça. Moi, j'ai l'impression que ça se fait un peu ce retour à la nature en province, où tu te mets un peu.
Pas le choix, c'est-à-dire le choix qui est de travailler pour quasiment rien. De dire finalement je refuse les règles de cette société, moi, donc je vais vivre autrement.
Moi c'est un peu moi je suis entre les deux, parce que c'est un peu ce que j'ai fait, moi. C'est-à-dire que ce que je te dis
le
là.
Vol, non, tu voles
non
pas.
Pas le vol, mais non, le deal. De dire bon bah de toute façon, de toute manière, je si c'est pour être salarié dans ces conditions. C'est pour ça que je me suis pas endetté, parce que j'ai vu que la finalité du truc c'était vers le bas, elle allait pas vers le haut, quoi.
Ouais.
Malgré tout ce qu'on te dit.
Ouais.
Alors, t'as toujours les contre-exemples, les mecs qui s'en sortent et tout, mais bon, c'est. Ouais. En tout cas, c'était pas fait pour moi.
Ouais, mais les contre-exemples font jamais une généralité. Je veux dire, on démontre pas une chose vraie en disant 1, 2, 3 exemples, ouais, même 10, même 100. Pour qu'un théorème soit vrai, il faut que ça soit vrai partout, tout le temps.
Ouais, en attendant, quand t'as des émissions chaque soir sur M6 qui te disent ouais, c'est super, t'as acheté 200 000, tu revends 250 000, qu'on te fait ces émissions-là, on te fait pas des émissions sur l'art de vivre avec 3,50€.
Ouais, mais alors comment ça se fait que. On va enclencher après, après avec la politique, mais quand on dit ça, comment ça se fait finalement que les ondes publiques sont censées être publiques, théoriquement, c'est annoncé comme ça, publiques, elles sont louées finalement à des chaînes privées, c'est ça, hein, quand ils émettent sur la TNT, etc., c'est quand même, ils émettent sur des ondes hertziennes qui appartiennent au public. Ouais. Et ils payent un droit d'émission, en fait. Comment ça se fait que ça ne vienne pas dans la poche des Français, cette location?
Ça, tu me poses une question un peu complexe.
Non, mais je veux dire, il y a des ondes publiques qui sont louées à des privés, donc il y a de l'argent qui rentre.
Ça, je pense que si, ça revient... tu veux dire en termes de programme?
Non, mais pourquoi ça... Donc si ça appartient au public, ça appartient aux Français.
Ouais.
Pourquoi ça ne vient pas dans leur poche?
Je pense
de cette location des ondes...
Ça doit revenir dans leur poche.
Alors, mais oui, ça revient pas.
Non,
on le voit pas, il n'y a pas de dividende versé aux gens pour pour la location, je parle même pas du concept de dividende universel qui est un peu plus général.
Ouais, non, mais c'est comme ça sur les contraventions, c'est comme ça sur tout. Je veux dire, toutes les comment le.
Comment ça se fait que ça ne vienne pas dans les poches des Français? C'est bizarre quand même. Parce que d'un côté, tu dis on n'a pas le choix, c'est bizarre. Parce qu'il y a un État qui est censé représenter le public, qui fait payer tout un tas de trucs.
Alors ça revient, attends, il y a des routes, il y a des.
Ah, mais ça, c'est pas de l'argent. Ça permet pas aux gens de s'acheter leur logement, ça. C'est bizarre quand même.
Mais
quand un actionnaire d'une entreprise, il trouverait anormal de pas toucher son dividende. C'est ça qui est curieux. C'est bizarre que le rapport soit pas fait quand même.
Ouais, mais moi, je sais pas. Moi, j'ai pas. Si l'État s'occupe comme il faut, je sais pas, du minimum, c'est-à-dire l'éducation, la santé.
Ouais, mais il peut s'en occuper. Il est pas obligé de s'en occuper à 100% de ce qui t'échoit. C'est pas normal qu'il n'y ait pas une partie qui t'échoit en tant que co-actionnaire de la nation.
Ouais, mais c'est alors là c'est compliqué.
Comment
tu regères la redistribution et tout par rapport à qui profite et machin, c'est l'usine à gaz là.
Ça pourrait être simple.
Dans l'idée, c'est ce qui se passe déjà. Simplement, c'est pas sous forme. Ça se passe sous forme d'allocation, effectivement aussi. Ça se passe.
Alors on y vient, parce qu'on va on en parlera un peu tout à l'heure aussi, mais on y vient parce qu'on va aborder l'aspect un peu plus politique. Et après on parlera justement parce que tu as fait un post aussi récemment sur l'allocation universelle, l'allocation familiale en fait, le concept d'universalité qui est attaqué aujourd'hui, mais avant on va parler politique parce que dans ton blog tu as aussi suivi les évolutions politiques, tu as été extrêmement présent et virulent, et moi aussi d'ailleurs j'ai été, mais Toi, peut-être un peu plus d'un côté un peu plus politique, moi je suis resté d'un point de vue économique, et toi, de façon un peu plus générale, tu as suivi cette campagne, la campagne 2012, hein, qui était pénible pour tout le monde, avec, avec des mecs en place qui ont usé et abusé de la communication à tout va, en stressant tout le monde, et puis, bon, ben voilà, ce changement entre guillemets, de majorité. Qui aujourd'hui, on a l'impression qu'il tombe un peu, un peu à l'eau, quoi, avec tout un tas de scandales qui commencent à émerger. Alors on
C'est
peut.
même, moi, c'est avant les scandales. Hein. Les scandales, pour moi, c'est l'écume d'un problème de fond qui est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de renouveau, il n'y a pas de nouvelle direction, quoi. Il n'y a pas de changement. J'irais même te dire, sur certains points, c'est presque pire, parce que.
Parce que, alors, on va quand même dire, pour préciser, moi je pense que. Pour ça aussi, c'est intéressant ce point de vue politique que tu défends. Alors, notamment, enfin, je veux dire, tu as des politiques qui t'ont repéré comme un blogueur influent, parce que tu as été invité à. Non pas pour recevoir des directives, hein, c'est pas le sujet, hein, mais tu as été invité à des réunions d'information au ministère, à des ministères aussi. Hein, ils ont invité quelques blogueurs pour leur donner des infos. Mais évidemment, tu restes totalement indépendant de ça, je veux dire, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, tu as eu quand même un contact avec eux et tu les as vus de près, quoi. Alors que comment tu vois à la fois cette élection et comment ils agissent, comment
Ah,
ils
comment ils agissent?
font?
Le fait de les voir de près, enfin, c'est quand même des exercices assez codifiés, donc en fait, ils sont pas vraiment différents de ce qu'ils sont
Comme.
ailleurs, quoi. C'est-à-dire
Ouais.
que tu peux juste, là où c'est intéressant de rencontrer des gens en chair et en os, et que tu vois un peu le contexte, la méta, enfin, le comportement, quoi.
Ouais, comportement.
Maintenant, sur la façon de faire la politique, moi, l'impression que ça me donne en rencontrant quelques ministres, j'en ai pas rencontré beaucoup, j'en ai rencontré trois en tout cas en fonction.
Moi aussi, j'avais rencontré, je vais te le dire, j'avais été invité une fois, mais c'était noyé dans le flot. J'ai rencontré Strozzi. Enfin, j'ai rencontré, je l'ai vu faire un
Chanceux, hein.
discours. Ouais, non, ouais, non, mais
Non,
oui.
moi, j'ai discuté.
C'est.
Non, ce que je
Ouais.
perçois, moi, un peu pour la proximité, c'est que je perçois souvent des gens. Alors, en tout cas, je parle pour Montebourg et j'ai rencontré Vallaud-Belkacem aussi. Des gens qui sont vraiment de bonne volonté, mais qui sont quand même pris dans une machine et un carcan, et notamment un carcan budgétaire.
Ouais.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les moyens qu'ils veulent. Et puis aussi, je les sentais aussi, je sens qu'ils sont pas forcément bien aiguillés. Voilà. Je parle pas de l'entourage direct, mais éventuellement de gens autour qui leur filent des dossiers ou des machins qui en viennent. Enfin voilà.
De l'influence qu'ils subissent, quoi,
Voilà, ils
l'influence
sont
externe
externes
qui
qui
les
subissent. Voilà.
entoure, parce qu'ils sont toujours entourés
Voilà.
par
Donc
une meute, j'ai envie
et voilà, moi c'est un
de
peu ce que je ressens.
dire. Ouais.
Mais bon, ça c'est pas non plus de l'analyse. Enfin, voilà, tout le monde peut le ressentir. On sent que ça manque. Il manque un peu de renouveau dans les analyses et dans les propositions et dans les perspectives. Même si, au-delà de ça, alors ça, bon, c'est ce que j'ai dit en négatif, à côté de ça, je vais pas m'élancer dans le tous pourri ou quoi que ce soit, non, y a des gens de
Ah
bonne
mais comment on
volonté.
peut expliquer un truc? Alors, comment, non, mais, je veux dire, c'est pas explicable à moins de. Enfin, je sais pas, mais. La thèse de l'UMPS devient de plus en plus, j'ai l'impression, visible, parce que quand tu vois les niches fiscales sur, notamment en particulier, là, les œuvres d'art qui avaient été, toujours pareil, un peu nettoyées par, je crois, Copé, il me semble, et là, c'est réactivé, de la même façon, voire pire, par Fabius. Donc il se passe la main, quoi, je veux dire, à un moment donné, donc ils font des niches fiscales sur ça. Enfin, je veux dire, c'est
Il
insupportable. Ça
réactive,
fait
Georges.
20-30 ans. Mais oui, enfin, je veux dire, il l'a prolongé, quoi. C'est des trucs
Bah,
qui
c'est
sont.
ce que je te disais tout à l'heure sur moi, les niches fiscales, je sais
En quoi ça aide les
ça.
jeunes
Moi,
qui veulent
c'est.
accéder au
Non,
logement?
mais
Enfin, je veux
voilà,
dire, c'est un scandale.
le problème de la niche
C'est.
fiscale, pour moi, très souvent, c'est de la fraude
Et
fiscale
du
légale.
flot qui poursuit le
Voilà.
CV. Comment
Bah,
tu peux expliquer ça autrement
c'est toujours.
que par une trahison profonde du principe démocratique? Enfin, je veux dire, c'est
Bah,
inacceptable.
c'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas de budget, machin, il faut stimuler quelque chose, donc
Mais ils stimulent les gens qui sont
Ben oui, mais
déjà.
on en revient toujours à la même
Qui
histoire,
sont
quoi.
déjà
C'est.
rentiers, je veux dire, en
Ouais.
quoi ça va aider les innovants? Les innovants, a priori, c'est au départ ceux qui n'ont pas, ceux qui ont déjà, ils n'ont plus envie d'innover, ils sont déjà sont tranquilles. Je veux dire, donc ça veut dire que ceux qui veulent vraiment créer de la valeur, par définition, ce qui est innovant, c'est pas défini. Mmh. On peut pas définir une niche ou une aide pour ce qui est pas défini par définition, si ce n'est peut-être arrêter de gérer de l'arbitraire finalement. Est-ce que c'est pas de l'arbitraire tout ça? Est-ce que c'est...
Bah, c'est vrai, tu prends des exemples différents sur les niches fiscales, sur les œuvres d'art. Il y avait une intention. Au début de chaque niche fiscale, de toute façon, il y a toujours une intention louable. Donc pourquoi pas, mais tu vois, il faut évaluer ce que ça rapporte, machin. Alors c'est vrai que sur les œuvres d'art, j'imagine qu'au départ c'est pensé pour garder les œuvres d'art en France. C'est qu'on a un pays où il y a quand même un vrai patrimoine culturel. Bon, maintenant, c'est une fois de plus, c'est du manque à gagner. Alors, savoir est-ce que ces œuvres, le truc,
tu parles pour l'État.
Si les œuvres d'art sont effectivement exposées, qu'elles attirent des touristes, que les mecs prêtent les trucs, si c'est assorti de conditions, ok.
Ouais, le Larzac est concerné par le fait que les touristes arrivent à Paris.
Ouais, mais ça c'est le problème, c'est que tu peux pas faire. tu prends tout ton, tu peux pas, tu vois chaque. C'est pour ça qu'il y a des ministères et des missions. Effectivement, le gars de Larzac ne peut pas être concerné par les d'art, quoique il peut monter à Paris voir les tableaux, comme le mec de Paris va pas être concerné par les aides agricoles du mec du Larzac, tu vois, c'est-à-dire que c'est des trucs qui vont pas ensemble,
mais ça bafoue le principe de la loi universelle qui est la même pour tous, je veux dire, c'est pas la même pour tous.
Sur des applications qui sont bon, parce que les applications sont pas les secteurs d'intérêt sont pas les mêmes pour tous non plus.
Oui, alors du coup, ceux qui sont hors des secteurs identifiés, eux, ils sont matraqués à fond et n'ont droit à rien.
Ça dépend, il faut que tu me donnes des exemples.
Par définition, les secteurs non identifiés, ça ne peut pas être un exemple. On ne peut pas le cibler. C'est l'ensemble des secteurs non identifiés, notamment les secteurs innovants, justement. Mais la véritable innovation, elle ne se décrète pas. Alors quand ils disent, par exemple, on va aider l'innovation, c'est qu'en fait, ils veulent aider les axes de recherche au sein des entreprises. Les entreprises d'hier ne sont pas l'innovation pour demain.
C'est la BPI de Montebourg. Il est tout à fait conscient qu'il n'y a pas assez.
C'est favoriser les entreprises, donc les possédants déjà de ces entreprises.
Pas forcément, ça peut être des petites entreprises.
Ouais, ça peut être, ça. Ça l'est jamais.
Je me retrouve à défendre les petites entreprises d'un seul coup.
Ouais, c'est ça, non, mais c'est bien, mais si. Je veux dire, toi en tant que vidéaste, par exemple, professionnel, tu es une petite entreprise. Je veux dire, quelque part, quand tu vas chercher des contrats qui soient justement pas en CDI, parce que c'est pas ton truc, justement, tu agis comme un entrepreneur. Donc au final, comment on peut accepter que des entreprises installées hier qui font un métier qui est référencé, etc., vont avoir droit à des privilèges? C'est des privilèges, arbitrairement décidés, au détriment du citoyen lambda qui a choisi une activité librement établie, et non définie. Elle ne rentre pas dans les cases.
C'est pour ça que le problème des niches fiscales et des aides fiscales, c'est que ça doit être assorti d'un contrôle, mais radical, enfin un truc vraiment serré avec des objectifs de rentabilité suivant le domaine, parce qu'après ça, effectivement, si tu fais des aides pour la santé ou je ne sais, enfin il y a des choses qui sont pas quantifiables, mais sur l'industrie ou sur les, là effectivement, j'ai plus le chiffre en tête, mais sur les aides fiscales sur les entreprises en France, j'ai vu ça, ça allait majoritairement aux grosses boîtes, quoi, qui par ailleurs allaient user et abuser des emplois en temps partiel, enfin bon. Voilà,
c'est visible,
par exemple, la fameuse aide là, des 20 milliards du crédit compétitivité en emploi. Donc, quand j'ai rencontré Moscovici, justement, il a posé la question sur comment va être contrôlé ce pognon, quoi, parce que c'est quand même 20 milliards, là, on fait chier tout le monde pour récupérer 2-3 milliards à gauche, à droite, et là on file 20 milliards aux entreprises. J'ai pas vu vraiment les critères.
Aux entreprises existantes.
Oui.
Existantes. Et donc, au détriment de celui qui veut investir de façon différente.
Il nous répond, il y a une dimension de Paris. J'ai dit, waouh, putain, le Paris a 20 milliards, quoi.
Pourquoi on parierait pas sur les hommes plutôt? Pourquoi on créditerait pas les hommes?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas le crédit universel d'humanité?
Non, mais pour revenir à sa dimension de Paris, pourquoi pas en parions si on a les moyens de parier 20 milliards et je croyais qu'on était ultra en déficit. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun critère de retour, et à côté de ça on va te dire, bah là il manque 2 milliards dans la santé, là il manque 2 milliards dans les retraites, là, alors donc là tu vas travailler plus, là tu vas te payer moins, et à côté de ça on file 20 milliards aux entreprises en espérant que ça va faire quelque chose.
Alors comment tu sens ces changements de pseudo majorité là, comment tu sens ça?
Sur des exemples comme ça précisément, sur ce qui s'est passé là, je vais être franc, je suis pas content, mais je donne jusqu'à la fin 2014. avant de,
avant de sanctionner,
avant de sanctionner, de sortir la, le bazooka.
Beaucoup de temps. Hein.
Je donne un an et demi parce que c'est vrai qu'aussi il y a une situation qui est quand même.
Ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont rien, de toute façon, ils n'ont rien fait de fondamental. Il y a même pas.
Il y a pas de renouveau. Il y a pas de changement. Il y a pas de. Il me semble pas qu'il y ait de vista. Il y a pas. Il y a des bonnes.
Il y a pourquoi il y a même pas de débat. Ils tiennent les ondes publiques. Donc il y a, Radio France. Il y a Antenne. D'ailleurs, ils nous ont. Alors, il y avait une super émission d'ailleurs qui était de Frédéric Taddeï qui laissait la parole à des gens un peu non conventionnels. Résultat, ils l'ont massacré, hein, ils ont enlevé ses émissions et maintenant il est sur la 2 à quelle heure. Il n'a plus le droit d'inviter plein de gens puisqu'ils sont sur liste noire, donc il ne peut plus de toute façon faire parler du monde.
C'est pas qu'il n'a pas le droit, non, je crois qu'il a le droit. Ou mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que toi, tu veux rien.
Pourquoi non, mais je veux dire, je pars sur ces ondes publiques pour qu'ils ne font pas des débats sur ces sujets-là. Et notamment des débats sur le référendum d'initiative populaire, des choses qui remettent un peu la politique au sens. Parce que là, on a une crise politique.
C'est marrant parce que tu touches
politique et financière, tu es d'accord, c'est lié. Je veux dire, on voit bien que les deux sont liés.
Oui.
Parce que tu disais pas de budget, mais pourquoi pas de budget? Parce qu'on a, Attends, on vote non et ils nous font oui, quoi. Je veux dire, on vote non à la Constitution européenne pour dire mais non, ça nous convient pas. Mmh. Et au final, c'est oui quand même. Et les mecs continuent, quoi. Je veux dire, c'est. Mais ils ont pas compris qu'on. Enfin, je veux dire, on n'est pas d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, comment c'est possible qu'ils n'entendent pas ça? Est-ce qu'à un moment donné, ils se rendent compte de ce qui va leur tomber sur la tête ou pas? C'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc qui va leur tomber sur la tête. Exemple récemment, pour moi, Cahuzac, c'est pas un hasard et c'est que le début. C'est-à-dire qu'il va y avoir, un massacre, je dirais, en ligne, quoi. S'il va se passer des. Et ça peut même aller sur des trucs beaucoup plus graves. Il y a beaucoup de remarqué d'ailleurs qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de suicides aussi. Non
ouais, alors là, tu viens de me mélanger 10 trucs.
Non, je veux dire, si, c'est qu'à un moment donné, il y a des forces qui sont pas contentes et qui sont des forces organisées. Nous, on n'est pas contents, mais on n'est pas organisés. Mais il y a des gens qui sont organisés.
Ah, tu crois, toi, tu veux dire que Cahuzac n'est pas tombé par hasard?
Mais bien sûr qu'il tombe pas par hasard.
On aurait pu dire l'inverse, il n'était pas tombé. Je veux dire, moi, là, franchement, déjà, j'ai aucune idée de si. Enfin,
pas au hasard. Hein.
Ouais, je crois une époque où il y a effectivement un besoin de transparence, mais ça c'est propre aux périodes de crispation sociale et de misère, quoi. Cahuzac, on lui aurait tout pardonné si il y avait que 4% de chômage et 2% de croissance, quoi. Comme ça a été grosso modo toujours le cas. D'ailleurs, tu remarques dans l'histoire Cahuzac qu'il y a quand même je le ressens, il y a pas non plus tout un délire médiatique sur Cahuzac, c'est-à-dire on veut soudainement, après s'être endormi pendant des années, tout le monde veut trouver des coupables et machin bon.
Ouais. Est-ce que c'est pas
moi quand j'en discute avec les gens autour de moi, j'ai pas.
Est-ce que c'est pas un peu le Madoff local et c'est pas le bouc émissaire pour cacher.
Non, mais je pense qu'il y a pas.
La grosse arnaque des 600 milliards de dettes supplémentaires dont on n'a toujours pas discuté. Comment ça se fait que la dette a augmenté 600 milliards de plus
sur,
pas
sur,
d'émission là-dessus, rien.
Là, on est d'accord sur le fait qu'on focalise sur un homme. Le mensonge, en fait, ce que j'avais écrit une fois de plus sur le blog, le mensonge, en fait, est plus fort que la fraude. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas le vrai problème qui est la fraude fiscale. Parce que la fraude fiscale, ça touche. Quelque part, ça touche beaucoup, beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a les gros fraudeurs, évidemment, c'est un rapport. En fait, on sort de 20 ans, c'est marrant, c'est concomitant à la crise immobilière.
Oui.
On a constamment.
Constamment
dévaloriser la notion de l'impôt, le sens du collectif, en disant oui, mais les impôts sont mal utilisés, oui, c'est machin, c'est ceci, cela. Donc, toutes les unes de magazines, comment échapper à l'impôt, comment bien placer, comment utiliser la bonne niche, machin et tout. Donc en fait, on a distillé chez les gens, et on le voit encore dans la critique de la gouvernance Hollande. C'est-à-dire que tous les gens qui critiquent, jusqu'à encore, il y a quelques. Là, maintenant, les journaux qui disent ouais, Cahuzac pas bien, il y a quelques semaines, ils disaient Hollande trop d'impôts. Il faut savoir qu'est-ce qu'il a fait, Cahuzac, finalement. Il a fait que appliquer jusqu'au bout, c'est la logique que le système entier a mis en place depuis 20 ans, c'est-à-dire ne pas payer d'impôts.
Bien sûr.
Voilà. Donc, c'est un 360. C'est même pas un problème politique, quoi. C'est vraiment un problème purement citoyen.
C'est un 360.
C'est un problème purement citoyen de rapport avec le collectif et avec l'autre. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance et le fait de se soustraire à ça quand on a beaucoup d'argent, je parle parce qu'il y a quand même
des gens qui ne payent pas d'impôts.
Je sais pas, moi, humainement parlant, quand t'as des pétés de thunes et que tu vas placer ton argent ailleurs, même si c'est parce que tu peux faire de l'évasion fiscale qui est légale, c'est pas forcément
la faute. Et pendant ce temps-là, les jeunes,
ça me pose un problème. Je dis putain, mais qu'est-ce que tu fous dans le pays, quoi? Qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que, alors, c'est aggravé par le fait que tu sois politique, parce que là, c'est le summum. Mais bon, j'ai même pas envie d'accabler Cahuzac, parce que je te dis, ça cache, enfin, c'est bien, ça permet d'aborder ce problème de la fraude, qui, ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, pas assez abordé et jamais assez abordé. C'est-à-dire que par contre, on va emmerder.
De la fraude ou de la refonte d'un système fiscal qui, de toute façon, n'est pas applicable parce que trop complexe aussi. Parce que,
ouais, non, mais c'est le truc, on va dire, oui, alors c'est la fameuse théorie, trop d'impôts, tu d'impôts. Et, c'est ce que la droite est en train de dire. C'est-à-dire, y a des paradis fiscaux parce qu'il y a un enfer fiscal.
Ouais, non, mais on peut faire beaucoup d'impôts en étant clair. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'impôts dans une complexité innommable.
On est d'accord. Et alors, je te dis, le problème, c'est qu'on pourra, tu pourras jamais. Comment le problème, c'est souvent le reproche qu'on fait aux impôts, c'est oui, moi je donne de l'argent, puis j'en vois pas le retour, je sais pas où ça va, mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quasiment impossible à faire. On peut faire des systèmes d'évaluation dans certains, on peut, ça, ouais, je suis certain, on peut faire des processus de rationalisation aussi. Ouais. Effectivement, il y a de l'argent gaspillé, hein,
mais t'as pas quand...
c'est quelque part, c'est comme je dirais, je vais faire comme Moscovici, il y a une dimension de pari, quoi. C'est-à-dire tu délègues à l'État la gestion du bien public sur certains, pas surtout, sur quelques trucs fondamentaux qui, de toute façon, si c'était aux mains du privé, ce serait foiré.
Certes, mais qui le décide, c'est jamais nous.
Bah, on le décide par
c'est jamais nous, puisque c'est oui. Alors, je veux dire, c'est pas tenable.
Oui, alors là, non.
Et en plus, tu sais jamais toi qui décide quand une question est posée. Donc, si tu comment tu sens, est-ce que t'as pas l'impression quand même aujourd'hui, ils ne font qu'essayer de moi, j'ai le sentiment qu'ils sont de toute façon incapables de voir le problème dans sa complexité, incapables de faire quoi que ce soit de réellement innovant eux-mêmes. D'ailleurs, ils demandent aux autres de le faire, d'être innovants, soi-disant pour aider l'innovation, mais ils savent même pas ce que ça signifie, ils sont pas capables de le faire eux-mêmes, ils sont même pas capables de proposer une refondation, au moins partielle, de notre principe, de notre fondement démocratique et républicain. Il n'y a rien qui permettrait de refonder la politique. Le minimum, ça serait le référendum d'initiative populaire, au moins que les gens puissent se saisir d'une question et la soumettre au vote, c'est... et destituer des députés.
Alors c'est un vrai problème, ça, parce que je suis d'accord avec toi sur les référendums et tout. Le problème, je ne sais pas si tu as remarqué le climat ambiant, avec les histoires de référendums, on peut très bien se retrouver comme ça s'est passé en Suisse, avec des référendums, tu vois, est-ce qu'il y a trop d'étrangers en France, ou des choses comme ça. Ça peut être dangereux. Alors après ça, il faut...
On n'a pas à décider de ça, le peuple est souverain...
Moi je pense qu'il y aurait une méthode peut-être plus... je pense que la politique en France souffre d'un... Le monde politique en France souffre vraiment d'un gros problème, c'est le manque de diversité sociale, quoi. Alors c'est pas que l'histoire Cahuzac, mais ça fait très longtemps que je me fais la réflexion, tu vois. Tu vas dans l'hémicycle, ils sont tous avocats ou médecins,
il y a
un problème, quoi.
Il y a pas d'ouvriers, il y a pas de...
Il y en a, mais ils sont trois, on te dit souvent diversité homme-femme, c'est vrai, important, mais la vraie diversité, si c'est pour avoir des femmes avocats et des hommes avocats, on n'avance pas vraiment, quoi.
Bah oui.
Il faut un peu plus de gens du peuple.
On va revenir après, puisqu'on passera, on ira en faire. On va arrêter là pour l'instant sur cette parenthèse politique là. On va couper l'émission un peu là. On va faire une petite pause musicale. On va revenir après sur le problème des attaques qu'il y a maintenant sur les allocations carrément. Et après, justement, on reviendra sur ces problèmes généraux politiques pour voir s'il n'y a pas des solutions. Et on voit bien que, évidemment, l'économie est liée avec tout ça, puisque l'allocation, qui dit allocation, dit pognon, comme tu disais. Alors, il n'y a qu'à les donner en nature aussi, tant qu'on y est. Alors, donc, donc on va y revenir. Et avant, donc, on se laisse sur une petite musique libre en coupure d'émission. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Une certaine alchimie secrète, une certaine alchimie secrète circule. Librement le temps d'une nuit, librement le temps d'une nuit, sans lune, sans lune.
Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte.
ce moment où Dieu fait semblant de rire. Fou de croire que l'amour pourrait, fou de croire que l'amour pourrait nous suivre, nous suivre.
Bravé l'amour reste notre seule lutte. 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 Bravé l'amour reste notre.
Et nous voilà de retour dans cette émission avec Seb Musset, le blogueur Tout est politique. Et avant, c'était chroniqueur de guerre néolibérale. Vous voyez qu'il est vraiment à fond. Donc, on a attaqué dans cette première partie de l'émission le problème du logement. On en a parlé de la crise du logement, de ce problème qui est quand même un des problèmes centraux en France actuellement. On a parlé de cette transition politique qui a eu lieu. On a un peu critiqué. Et fait aussi des rapports, on a parlé des niches fiscales sur les œuvres d'art qui se sont transmises d'un gouvernement à l'autre, on a parlé aussi des problèmes d'aide à l'innovation, de ceci, cela, etc., de ce qu'ils essaient de faire et de comment ils sont actuellement coincés pour faire un certain nombre de réformes. Alors, par contre, il y a, et ça va être maintenant le thème qu'on va aborder, il y a des attaques qui sont faites, on les avait vues venir de loin déjà, les attaques qui sont faites contre le système aussi social. Notamment, alors récemment on l'a vu, c'est la remise en cause de l'universalité notamment de l'allocation familiale. Alors pour une fois qu'il y avait un truc, alors il n'est pas tout à fait universel parce qu'en fait il est universel pour les familles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'enfants par contre ils sont eus, ou alors il faut d'abord en plus je crois qu'il en faut au moins 3 pour que ça commence pour qu'il y ait des incitations aussi, je sais pas, enfin en tout cas il y a des allocations familiales qui sont universelles, si on a une famille quelle que soit sa situation on a droit à des allocations. Alors comme disait l'autre, j'avais entendu d'ailleurs même un libéral comme il s'appelle, Madeleine, qui disait, mais en fait, le vrai truc, c'est surtout le quotient familial, parce que le quotient familial permet quand même à des familles qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent de diviser par le nombre de parts, et au final, de payer beaucoup moins d'impôts, ce qui les avantage horriblement plus que le fait de donner quelques centaines d'euros par enfant et par famille à tous. Mais ils attaquent ce principe-là, et toi, tu as fait un post qui, justement, alertait sur le fait que c'était plus grave que ça en avait l'air, parce que dire qu'on allait le supprimer pour les riches, c'était remettre en cause ce principe d'universalité, ce qui est le début de la fin.
Bah, c'est une des rares choses qui fasse encore Bon, déjà, on fait pas d'enfants pour l'argent, donc on va mettre de ce côté-là, on va mettre ça de côté. Mais c'est une rare chose qui fasse, quand je parlais de sens justement par rapport à l'impôt et des choses comme ça, c'est une rare chose qui met quelque part sur pied d'égalité des pauvres et les riches. C'est assez rare en fait dans ce pays. Et bon, on peut dire c'est une bonne idée, oui, alors effectivement, c'est comme ça que c'est présenté. D'ailleurs, on a fait des sondages, ça commence toujours comme ça, on fait un sondage dans la peuple, êtes-vous pour ou contre les allocations pour les riches? Tout le monde est bien, ouais, non, on est contre, 75%, et paf, 2 semaines après, t'as la proposition de loi qui arrive. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, et effectivement, on peut se dire, ouais, bah, pourquoi ils auraient besoin de toucher 500 euros alors qu'ils ont 5000 euros.
Le problème étant que ça implique bien sûr des contrôles, etc. Et puis on n'est pas forcément riche tout le temps, ni pauvre tout le temps. On peut être pauvre, devenir riche, ou l'inverse, être riche, devenir pauvre.
Ouais.
Ce qui fait que quand on change de catégorie, on est emmerdé ou pas, selon le seuil que l'on passe ou pas. Donc ça devient une complexité.
Donc il y a ce côté, il y a l'idée déjà que ça casse, ça fait une brèche dans ce côté un peu universel. Bon, voilà.
Et ça rajoute le contrôle, du coup.
Après ça, le problème c'est qu'on casse aussi, on installe une logique qui fait qu'on va créer une barre, un curseur, en dessous duquel tu vas toucher et au-dessus duquel tu toucheras pas.
Oui.
Avec tout ce que ça va créer.
Une nouvelle barre.
Ouais. avec tout ce que ça va créer comme rancœur évidemment pour le mec qui est juste au-dessus.
Et, oui, non, mais le mec qui est juste au-dessus en général il reste pas tout à fait au-dessus, donc il va naviguer entre en dessous et au-dessus, et des fois il va toucher, des fois pas, ce qui va l'énerver au possible.
C'est que. On met une barre, on met un curseur, et qu'à partir du moment où on le met, et ben le truc est enclenché, on va le baisser progressivement.
Ouais.
Et après ça, en 10 ans, C'est un peu ce qui se passe en Angleterre. On va regarder, là on est, dans du, on est descendu tellement bas, bon, on fout les allocations que pour les pauvres, c'est une trappe à pauvreté.
Donc
on l'a supprimé. Et voilà. C'est exactement comme ça. Enfin, tu vois, c'est comme ça que je le vois. C'est un processus qui prend 5-10 ans. Et à chaque fois, on te sortira un sondage. On te dira, bah oui, là, est-ce que vous pensez que les allocations familiales finalement maintiennent les pauvres dans la pauvreté? Parce que finalement, ils sont pas. Ils
mais
sont
en fait,
pas,
ce qui les maintient, poussés... ce qui les maintient, c'est pas l'allocation, c'est la barre, justement. Parce que c'est comme quand tu vas effectivement sortir un peu de ton système de pauvreté, tu vas commencer à gagner des sous, mais ce que tu gagnes en plus, on va te l'enlever des allocations par la barre qui est franchie. Ce qui au final, c'est pas du tout incitatif, mais c'est pas l'allocation qui est pas incitative, c'est la barre. C'est la barre qui supprime, c'est-à-dire les gens qui sortent de ça ne travaillent pour rien en fait.
Ouais.
Donc c'est pas incitatif, c'est le problème. L'impréhensible du revenu de base inconditionnel justement, et universel aussi, c'est entièrement cumulable. Si je gagne 600, si je gagne en plus, c'est en plus, entièrement en plus. Et l'impôt est le même pour tous. Donc si je gagne beaucoup plus, là du coup je participe à...
C'est vrai qu'il y a, on peut faire une sorte de similitude entre les deux, mais bon, c'est... Moi je te dis, c'est un truc, je le vois comme un... Je l'ai vraiment vu comme un effet... je vois l'effet perverse en fait, c'est-à-dire que bon...
Sur le principe... Donc c'est voulu, mais donc les mecs qui s'appellent là, socialistes, c'est pas les socialistes,
je
c'est
pense
pas
que...
vous.
On est obligé de
regarder la réalité en face. Je veux dire, on est devant.
Là, chez moi, ce problème-là m'embête parce qu'en fait, je me retrouve à dans le camp de la droite, en fait, parce que la droite, c'est les premiers à monter contre ce truc, alors que. Pas... Mais c'est vrai que
ouais, ça me
pour moi ouais. C'était pas le truc prioritaire à aller taper quoi, les allocations familiales quoi. Je crois qu'il y a d'autres endroits où il y a d'autres poches Afrique qu'on peut viser.
Ouais. Hein
bon, notamment on va y revenir la fraude à la TVA, la fraude fiscale machin. Là bizarrement bon bah il y a pas vraiment une volonté de faire de récupérer. J'en reviens à l'entretien que j'avais avec Moscovici, où les mecs Moscovici, là, il avait une grosse ambition pour la fraude fiscale cette année, hein, pour récupérer l'argent, c'était 1 milliard.
Ouais.
Voilà, 1 milliard. Accroche-toi.
Il voulait récupérer 1 milliard.
Il veut récupérer 1 milliard. Ouais.
Ouais.
Ouais. Sur, je sais pas...
C'est pas beaucoup.
Bah non, c'est que dalle.
C'est pas grand-chose.
C'est... Donc voilà, c'est-à-dire que là on va désinguer le principe d'universalité sur les allocations familiales pour récupérer 30 centimes, et on laisse pendant ce temps-là, on traite pas le reste parce que tu comprends, il faut embaucher des inspecteurs du travail.
Faut rappeler quand même le budget de l'État, parce que sinon on sait pas de quoi on parle. Le budget de l'État c'est l'ordre de 1000 et quelques milliards, c'est 1200 je crois, un truc comme ça.
Ah ouais, je crois que c'est plus.
Hein. Ouais, c'est 1200, peut-être 1400, enfin c'est beaucoup bien sûr. Voilà, c'est 1200, c'est assez beaucoup en tout cas. Ouais. Donc il faut savoir que. Je crois que les intérêts de la dette, c'est genre 40 milliards.
La dette est à 1008, et de toute façon, on peut le calculer par rapport à la dette, puisque la dette est...
Ouais, c'est ça, 1008, exactement. Ouais, 1008, je sais pas si on peut le calculer par rapport à la dette, non, parce qu'après, t'as les intérêts de la dette, c'est un autre problème.
D'accord.
C'est un autre problème, ça.
Bon, je te laisse les chiffres.
Non, mais en gros, c'est de l'ordre, enfin, c'est pour savoir, c'est de l'ordre de 1000 milliards, voilà, donc faut savoir que 40 milliards, c'est impôt sur revenu, je crois, 40, 50, peut-être 60, c'est dans ces eaux-là. Donc 1 milliard, on voit bien que c'est très peu, oui. Par rapport au budget de l'État, bien sûr. Pour une personne seule, ça fait beaucoup. Par rapport au budget de l'État, faut pas oublier qu'on est 60 millions, on peut aussi rapporter par personne.
60, presque 70 millions.
Moi, je réfléchis comme ça toujours maintenant. Si j'ai 1 milliard, on est 60 millions. Alors, par combien je dois multiplier 60 millions pour trouver 1 milliard? Ben, en gros, par 20, un peu moins de 20. Voilà. Donc, ça fait 20 euros par personne, quoi.
Ouais.
C'est que... Non, mais c'est ça. Hein, ouais. Y compris des petits. Hein. Mais ça fait con. Voilà, on voit à peu près de quoi, à quoi ça ce que ça représente. Voilà, d'accord. Alors donc, oui, ils attaquent par ce principe-là, le principe d'universalité en disant... C'est une fausse... c'est toujours pareil, c'est le fait de stigmatiser... Là aussi, il y a une erreur, je dirais presque, de si on se prétend... si on voulait se prétendre, enfin, je dirais, défenseur d'une certaine idée de la société, avec un certain nombre de règles communes, etc., de stigmatiser des gens qui sont, entre guillemets, riches et des gens qui sont pauvres, c'est déjà mettre des barres,
c'est
et c'est déjà...
C'est-à-dire que... Non, mais sur l'idée, moi, je suis...
C'est un moyen de finalement, c'est aussi un moyen
Moi, pour moi, il y avait une méthode beaucoup plus simple...
D'enlever des droits.
Il y a une méthode beaucoup plus simple par rapport à ces allocations, tu fais une vraie réforme de la fiscalité en augmentant des tranches d'imposition, et puis voilà, tu le récupères cet argent. Mais c'est-à-dire que je préfère qu'on passe par là, par l'impôt, que par la non-distribution de cette allocation, avec tous les risques que ça comporte.
Et est-ce qu'il n'y a pas un mensonge à ne pas parler tout simplement du quotient familial, où là, par contre, on parle de beaucoup.
Ouais.
Eh oui, le quotient familial. Je veux dire, c'est comment tu expliques ça? Enfin, je veux dire, c'est non, mais on se moque du monde. Quoi. Je veux dire, c'est pas sérieux. Comment on va attaquer une allocation qui est de quelques centaines d'euros par mois? On parle pas du quotient familial. Alors, en gros, quotient familial. Voilà, vous êtes quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. On va dire, tiens, 100 000 euros par mois, pourquoi pas. Hein, ben, vous êtes une personne, vous payez une part. Hein, vous êtes marié, vous avez 3, 4, 5 gamins, ben, vous allez diviser, genre 5 gamins, c'est une demi-part, donc ça va faire 2 parts et demi, plus 2 adultes, ça va faire 4 parts et demi, vous allez diviser par 4 et demi votre revenu, et vous allez payer finalement beaucoup moins d'impôts. 4 fois et demi moins d'impôts, ouais, donc du coup c'est des sommes incommensurablement plus grandes. On parle là de dizaines de milliers d'euros qui échappent à l'impôt, on ne parle pas de centaines d'euros.
Ouais, mais en même temps, bon, là c'est un problème... Oui, c'est vrai qu'une fois de plus sur les... Mais bon, j'étais
allé à l'impôt sur... C'est plus qu'un problème, attends.
Ouais, non, mais je veux dire que ça coûte aussi du pognon de faire des... Enfin, je veux dire, c'est
plus qu'un problème.
Un enfant, ça coûte cher.
Oui, mais ça coûte aussi... Ça devrait que...
Oui, non, mais le mec qui a plus d'argent, ça lui coûte moins cher.
Mais oui,
Ouais, non, mais je veux dire, il paye aussi plus d'impôts, normalement. Théoriquement, le mec qui a plus d'argent.
Oui, mais il en reste beaucoup plus, comme tu dis l'autre.
Ouais. Non, alors, ouais, après ça, il faut faire les... Moi, je suis pas fiscaliste non plus, hein, mais...
Oui, mais il reste quand même beaucoup
mais,
plus.
Non, mais de toute façon, il faut plus de progressivité dans l'impôt. Il n'y a pas assez de...
Oui, mais quand tu expliques le quotient familial, il n'y a pas un mot sur le quotient familial. Le seul qui en a parlé, j'ai entendu dans les radios, c'est sur BFM TV.
Ouais, mais qu'est-ce que tu voudrais faire?
C'est Madeleine. Non, mais le quotient familial, faut le supprimer. Je veux dire,
t'as
une allocation familiale. Mais si t'as une allocation familiale universelle pour tous, t'as un an... enfant, l'aide,
ouais, mais l'état... C'est, attends, une allocation, attends, c'est pas, on n'est pas dans les mêmes...
Oui, mais
quoi, dans les mêmes, on n'est pas dans les mêmes revenus, hein.
Ouais, on n'est pas dans les mêmes revenus, mais tu désavantages encore plus celui qui est pauvre par rapport à celui qui est riche.
Comment ça?
Bah, c'est-à-dire que lui n'a que l'allocation pour s'occuper de son gamin, et celui qui est riche, tu vas lui filer des dizaines de milliers d'euros parce que le quotient familial. Donc effectivement, il va avoir de quoi élever son gamin beaucoup mieux. Je dis pas que c'est mal, hein, d'élever son gamin beaucoup mieux. Mais il peut le faire sans ça. Il peut le faire sans ça. Je veux dire, pas de raison de l'avantager encore plus par le quotient familial. Pourquoi lui filer des dizaines de milliers de crédits d'impôts supplémentaires?
La question se pose.
Ah oui, la question se pose, oui. Enfin, je veux dire, en tout cas, ce problème... Enfin, là, on parle d'une quantité de milliards qui est bien au-delà de ton 1 milliard. Hein. C'est bien au-delà de ça.
Oui.
C'est colossal.
Oui, d'autant plus que...
C'est colossal. Ouais. Je parle des gens qui gagnent 100 000, mais il y a des gens qui gagnent beaucoup plus. Avec le quotient familial, tu... Ah ben oui, c'est toi qui veux chercher de l'argent, je veux te dire que là, il y en a beaucoup. Il y en a énormément.
Faut que j'étudie la question. Faut que j'étudie l'effet pervers.
Une allocation familiale pour tous, moi, ça me paraît très bien, y compris pour les riches, très bien. Bon, ben effectivement, tu lui files 500 euros et qu'il en gagne 200 000 par mois, c'est pas grand-chose. Mais il n'y a pas de raison d'avantager plus, alors qu'il est déjà, plus, comme tu disais, il est déjà plus riche. Et l'impôt doit être le même pour tous. Alors pourquoi il a un crédit d'impôt? Ce gamin-là, finalement, un crédit d'impôt par rapport à celui qui est au départ? Parce que les gamins, en plus, on ne peut pas leur donner...
L'impôt ne doit pas être le même pour tous.
Oui, mais les gamins qui naissent, on ne peut pas les supposer d'avoir un mérite différent à la naissance. En fait, je veux dire, là aussi, on retombe dans les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et là, on va avec le quotient familial, lui, il naît dans une famille riche, donc on va le suravantager, c'est-à-dire qu'il aura encore plus... de possibilités de... Donc, en fait, au final, un impôt qui n'est pas le même.
En fait, tu voudrais le supprimer à partir d'un certain seuil de revenus.
Non, mais moi, je dis que s'il y avait une allocation universelle familiale, même familiale, sans parler de revenu universel, qui est évidemment beaucoup mieux. Universel, c'est encore beaucoup mieux. Mais si c'est une allocation familiale universelle, je vois pas pourquoi c'est doublé d'un quotient familial qui permet de réduire des sommes astronomiques d'impôts à celui qui a beaucoup d'enfants et qui gagne énormément d'argent. Quelqu'un qui va gagner 200 000 euros par mois et qui va avoir 5-6 gamins va payer quasiment plus rien d'impôt. Enfin, je veux dire, 3-4 fois, 5 fois moins d'impôt que s'il n'y avait pas ce coefficient. Au lieu de payer, je sais pas moi, 20 000 ou 30 000 euros par mois d'impôt, il va plus payer que 5 000, quoi. Donc il a de quoi élever ses gamins, on est d'accord. Mais il a de quoi, même sans, il a de quoi. Pourquoi lui donner cet avantage supplémentaire? Pourquoi en plus l'exonérer des œuvres d'art? Puisqu'avec ça, il va acheter des œuvres d'art.
Ah ouais, bah là, tu me parles d'un mec, le cas particulier quand même. Hein. non, mais on est d'accord. Non, mais je suis pas...
C'est pas abordé nulle part.
J'ai pas d'idée des sommes, c'est assez abstrait pour moi comme débat, parce que j'ai pas idée des sommes et...
Du nombre de familles concernées.
Maintenant, j'ai pas non plus. J'ai pas. On n'est pas non plus. Je crois que ça doit être deux enfants par femme. Genre, la moyenne, on n'est pas un pays de familles nombreuses.
Oui, on a un renouvellement de génération termes démographiques. Mais après, il y a des familles qui ont beaucoup d'enfants, d'autres pas.
Ouais, ouais,
après, c'est pas
je sais pas,
c'est pas très homogène. Donc, tu sais pas.
Là, honnêtement, je sais pas.
T'es coincé, je t'ai coincé donc là.
Je suis pas, du tout. Alors là, franchement, le costume familial, j'ai pas.
Ce que tu dénonces clairement.
Mais c'est clairement, par contre, effectivement.
C'est la stratégie de destruction, quoi.
Je sais pas si c'est une stratégie, parce que je sais même pas. Alors là, je sais pas si c'est calculé ou quoi, ou si c'est vraiment.
Je pense que c'est pas calculé, toi.
Je sais pas si c'est de la. Parce que ça s'est fait ailleurs. Tu sais, il y a souvent les. Moi, ce que je te disais, je le reproche beaucoup aux politiques, c'est le manque de. C'est la copie des recettes. Hein. Ouais, ça marche ailleurs, on fait comme ça. Ah oui, c'est comme ça parce qu'on fait comme ça et on fait pas autrement.
Ouais, mais alors si on dit toujours ça marche ailleurs ou ça n'a pas été testé ailleurs, on ne teste pas, personne ne va jamais tester un truc nouveau.
Il y a un manque de.
C'est le contraire de l'innovation. Ils veulent qu'on soit innovant, mais pas eux.
C'est un vrai problème. Non, mais ça, voilà. on est d'accord.
Si en 1789, on fait ce qui marche ailleurs, c'est la monarchie. Il faut pas faire la révolution. C'est ça le truc. Ce qui marche ailleurs, on est d'accord. Je veux dire, à un moment donné, c'est qu'il y a bien un premier qui fait le premier pas. Je veux dire, donc.
Sur l'histoire de la location, je pense que tu parles de stratégie, je sais même pas si c'est une stratégie. Mais par contre, clairement, je vois les étapes d'après, quoi.
Les étapes d'après.
Problème, c'est que la gauche va passer ça, ok. Admettons que la droite repasse dans quelques années.
Il n'y a plus de gauche et de droite, là.
Peu importe.
C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est.
L'alternance.
C'est clairement les mêmes, en fait.
L'alternance te permet de dire ça c'était bien ou ça c'était pas. Enfin, ça te permet, même si tu dis c'est la même chose, machin, ça te permet de rebondir sur des trucs qui ont été faits ou de bon voilà là le problème c'est que un gouvernement c'est vrai que ce paradoxe c'est que là c'est plutôt la droite qui défend les allocations familiales là. mais bon le principe il est dans ce truc là je vois le verre est dans le fruit quoi,
parce que la droite est attachée à la notion de famille donc tout ce qui touche à la famille il va le défendre quel que soit le truc même si c'est l'allocation universelle ça leur pose pas de problème puisque ça fait partie des valeurs de droite la famille la famille c'est profondément je fais juste remarquer quand même que la devise de la République, c'est pas travail, famille, patrie. J'ai signalé plusieurs fois, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça veut pas dire que la famille est pas.
C'est pas aussi une question de famille. Je pense qu'il y a aussi tout un côté dans le. La France, il y a un modèle social et un modèle. Investi dans ses enfants. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de quand tu parlais d'investissement dans les entreprises. Nous, la France a une façon d'investir dans l'humain, quoi. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de. C'est pas une subvention à l'enfant, quoi, mais c'est aussi une façon de dire, la preuve, ça marche, c'est qu'on a une natalité assez forte dans ce pays, et c'est peut-être un des rares avantages qu'on ait pour les années qui viennent. Et c'est une façon de miser sur ceux qui arrivent, quoi. Qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres,
d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas vraiment pour tous de la même façon, puisqu'il y en a qui auront le quotient familial et pas les autres.
Le môme qui est pas né, il peut pas avoir le quotient familial, ça on est d'accord.
Non, mais là, c'est la famille qui a le quotient familial, c'est-à-dire.
C'est pas une famille, c'est-à-dire que je te dis, élever un enfant.
Non, mais l'allocation familiale, c'est une chose, là, c'est une allocation pour l'enfant, et donc elle est la même pour tous,
oui, parce que
c'est l'État, normalement, ne doit pas privilégier les uns au détriment des autres, mais le quotient familial, c'est rajouter un privilège pour ceux qui en plus gagnent beaucoup d'argent. Un privilège exorbitant et qui coûte qui coûte le prix de la dette de l'État, on va dire ça, hein, pour pas exagérer. J'exagère, évidemment. Ça coûte très cher, ça coûte très cher.
Il y a d'autres.
Oui, mais si on voulait parler.
D'autres niches fiscales qui.
On est d'accord, il y en a sans doute d'autres, mais si on avait voulu parler de la famille vraiment. Et là, je suis obligé de. Là,
c'est pas une question de famille, c'est une question de futur, c'est des générations qui viennent.
Mais d'accord, mais le quotient familial, quoi.
C'est un mauvais terme. Voilà. Mais c'est pas une question de.
Non, attention, pas distinguer l'allocation qui est 300 euros pour le gamin, par exemple, et le quotient familial, tu touches 100 000 d'impôts, t'as 5 parts, donc tu divises par 5, t'as plus de 20 000 à surdéclarer pour tes impôts et non pas 100 000. Donc c'est ça, et plus t'as d'enfants, plus ton revenu plus grand te permet d'enfants, de payer moins d'impôts.
Mais si tu prends le cas des riches, bon, mais même pour eux, ça coûte du pognon, même pour une famille moyenne, enfin, côté deux ou trois enfants, même un enfant, tu sens l'indifférence, quoi. Donc financièrement
parlant. Pourquoi pas donner un peu plus à chacun, plutôt que.
Ah, oui, après ça, il y a sûrement quelque chose à faire, ça, effectivement. Mais
le problème, c'est qu'on abordait le problème que du côté de l'allocation universelle, effectivement, comme tu le dis, et non pas du côté, voyons, où est l'argent. L'argent, c'est le quotient familial, c'est pas du tout l'allocation universelle. Donc il y a quand même une tromperie. Donc moi, j'ai quand même pas le sentiment qu'il y ait une quelconque alternance. Il n'y a pas d'alternance. Il y a M. Fabius qui renouvelle la niche fiscale pour les œuvres d'art qui concernent qui ? Qui ne concernent personne, à part. Ceux qui en ont, c'est-à-dire ceux qui ont pu acheter des tableaux pour des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros.
Ou souvent pour 300 euros.
Ou pour 300 euros qui aujourd'hui valent beaucoup. Qui
c'est souvent ça.
Souvent c'est les faux prix en plus, qui se le fient entre eux, normal. Mais et derrière, on a des gens qui attaquent l'allocation universelle qui, elle, est la même pour tous, et par contre qui ne dit rien sur le quotient familial qui, lui, est en fait un crédit d'impôt pour ceux qui gagnent le plus. Qui n'est pas du tout un principe d'universalité. Donc on est à l'envers, on est totalement à l'envers. C'est pas crédible, je veux dire, c'est pas crédible.
Ouais, mais là,
sur on a Cahuzac qui, voilà.
Sur le quotient familial, il faut que tu me calcules le nombre de personnes. C'est ça, moi j'ai pas le chiffre, le problème c'est qu'on parle d'un truc. Le nombre de personnes qui ont beaucoup d'enfants.
Mais
il y en a, mais je veux dire, je sais pas si c'est la majorité.
Il y en a plein.
C'est pas la majorité, quoi.
Il y en a plein. Mais c'est pas la question, moi ça me gêne pas qu'ils gagnent beaucoup, qu'ils aient beaucoup d'enfants. Je veux dire, l'impôt n'est pas le même pour tous. Et les subventions d'État ne sont pas les mêmes pour tous aussi. L'État favorise certains, et c'est souvent ceux qui sont déjà en situation d'être... Mais je veux dire, peu importe. La loi doit être la même pour tous. Moi, c'est pas une question de... Moi, je m'en fous qu'ils soient riches ou pas riches, ça m'est égal. Je veux que la loi soit la même pour tous, c'est le fondement de la République. Sinon, c'est pas crédible, sinon c'est pas acceptable.
Sur la fiscalité, ça peut pas être la même chose pour tout le monde.
Écoute, moi, le jour où le juge me demandera ceci, cela, je dis, écoutez, déjà, la Constitution étant pas respectée, je peux pas... Non, c'est niet.
Moi je suis complètement d'accord, il y a plein de choses qui vont pas bien, et il faut taper là où il y a du pognon, et il y a plein
de lutter contre la fronde, mais
par contre le côté
on pourrait taper zéro tout le monde, ça irait très bien. Zéro tout le monde, bon, mais très bien, dans ce cas là au moins c'est pareil pour tous.
Mais le problème, non.
Non, mais moi ça me gênerait pas, si tu veux.
Après ça t'attaques le fondement de ce qui fait société, quoi. C'est-à-dire que...
Mais oui, mais on en est là, parce que c'est le problème. C'est que le problème, c'est ce qui fait société aujourd'hui, ce sont des gens qui, de toute façon, quoi que tu dises, que tu dises non, ils vont te dire, de toute façon, on fera oui quand même, on s'en fout. Et comme disait l'autre, j'écoute, mais je tiens pas compte. Tu te rappelles ça? C'est Sarkozy qui avait dit ça. J'écoute, mais je te tiens pas compte. Il avait lâché ça. Ouais, il devait penser à autre chose. Mais c'était symptomatique, c'est un peu ça. Alors, justement, on en revient à ça, au fondement de la République. Alors... On a parlé toujours un peu tout à l'heure. Est-ce que là, quelque part, on n'est quand même pas devant un vrai problème? Est-ce que des réformes aujourd'hui qui soient audibles, ce ne sont pas des réformes que j'appellerais des formes de code, c'est-à-dire des réformes du fonctionnement même du code démocratique? Alors, on a parlé un peu du référendum. Alors, d'ailleurs, c'est Golan Royal qui avait commencé à en parler, des référendums d'initiative populaire, mais ils se sont bien gardés de l'intérêt concrètement. En Suisse, ils le font. Alors, tu me diras, tout à l'heure, tu disais, oui, ça peut être...
Il faut que tu définisses des cadres. C'est-à-dire dans quel cadre le référendum peut...
Des cadres déjà compatibles avec la Constitution. On est d'accord. Ça peut être un certain nombre de... Peu importe, mais en fait, oui, mais... Ça doit être possible, la possibilité. Savoir qui est souverain dans ce pays, parce que si une minorité dit ben les autres n'ont pas le droit de traiter de tel ou tel sujet, ça pose problème. Mais on peut se poser la question.
Mais
le problème, c'est qui est souverain, quoi? Est-ce que c'est le peuple ou pas? Enfin, je veux dire,
Il faut aussi mettre. Il y a aussi un truc qu'il faut bien se.
Mais alors, Étienne Chouard, attends, juste je termine, tu vas enchaîner dessus, tu vas donner ton avis. Je crois pas que tu l'aies traité vraiment dans tes problèmes. C'est le principe du tirage au sort. Alors, l'idée de Chouard, faut bien la comprendre. Hein. Je sais pas si tu as bien écouté le truc. Mais c'est de dire, en fait, c'est pas aux élus de décider des lois qui concernent les élus. C'est-à-dire qui encadrent les élus. Alors notamment, exemple, hein, pour donner un exemple pour être très précis. Les élus décident de la loi électorale, c'est-à-dire du découpement notamment des circonscriptions, fait de relancer ou pas des élections, du fait de choisir le nombre de gens qu'on va pouvoir élire ou pas, du cumul des mandats. Donc des trucs qui les concernent, donc qui sont élus. Ce qui fait que ça leur donne un avantage pour se perpétuer en tant qu'élu.
C'est un délit d'initié. Okay.
C'est un délit d'initié quelque part, oui. C'est un conflit d'intérêts.
Ouais, c'est un conflit d'intérêts.
C'est les deux. Les deux. Il y a aussi un délit d'initié puisqu'ils sont au courant. Ils savent à peu près ce que votent les gens.
Un conflit d'intérêts.
Donc une fois élu, en plus, ils découpent pour en plus être sûr de être réélu encore mieux. Et ils arrangent, par exemple, un peu de proportionnel, pas proportionnel. Ce sont les gens qui sont élus sur l'ancien système qui vont décider ou pas. Mais évidemment, ils sont en conflit d'intérêts puisqu'ils savent pertinemment quel type de résultat ça risque de donner. Et donc, il s'auto-avantage alors que l'électeur n'a pas toutes ces informations, bien sûr. Ouais, se garde bien de les lui donner. Et puis, de toute façon, quand bien même il les aurait, il n'a pas voix au chapitre. Donc, le tirage au sort, c'est de dire, c'est non pas qu'on remplace le système, on le garde tel quel. On rajoute une assemblée. C'est une assemblée tirée au sort qui, elle, encadre les lois qui concernent les élus. Ce n'est pas aux élus à décider tout ça. Donc, c'est une assemblée tirée au sort. Alors, c'est une assemblée tirée au sort avec une assemblée de conseils. Il peut y avoir des conseils. De la même façon qu'un jury de loi, enfin, je veux dire, de tribunal, un jury est tiré au sort, comme ça se fait et tout. Ils ne sont pas totalement seuls. Il y a des gens pour les conseiller. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de demander conseil à des jurés. enfin, ou à des professionnels de la loi pour leur dire est-ce que ça on a le droit de dire, ça on n'a pas le droit, enfin, savoir ce qui de l'ordre du droit, de ce qu'il n'est pas. Mais une assemblée tire au sort, moi qui s'occupe de ça, donc pas de tout, mais au moins de dire attendez, non. C'est nous qui décidons ça. Vous n'avez pas le droit d'agir là-dessus.
Tirage au sort sur l'encadrement, en fait.
Ou le référendum d'initiative populaire, qui va de pair. Hein. On peut avoir les deux, je veux dire. Bah, en tout cas, il faut changer. Ça, c'est plus possible.
Sur le référendum, oui. Pourquoi ? Enfin, oui, moi, pourquoi pas. Hein, après ça, si ça a vraiment une implication concrète, parce que, bon, une fois de plus, si on peut, oui, si le peuple peut agir sur des lois, oui. Mais bon, ouais. Alors, sur le tirage au sort. Si c'est pour l'encadrement dont tu me parles, pourquoi pas ? C'est vrai que c'est pas... Là, sur le papier, en tout cas, ça ne semble pas une mauvaise idée. C'est vrai qu'il y a effectivement une dimension... Enfin, ça, en plus, on le voit régulièrement sur les législatives, de circonscriptions qui sont redéfinies et qui, du coup, ça désavantage ou ça avantage certains candidats. Donc, pourquoi pas ?
Nous allons maintenant faire une petite pause avant de reprendre cette émission Monnaie Libre avec Seb Musset et nous retrouvons Listen avec Lovely. Thank you.
Voilà, c'était Lovely de l'album Listen, et bien sûr c'est des groupes Triad que nous avons déjà découvert sur l'émission Monnaie Libre, et nous reprenons maintenant notre émission avec Seb Musset, Tout est politique, c'est parti.
Parce que finalement, est-ce que ces dérives dont on a parlé longuement, elles sont pas dues justement à ce vice du code qui est une boucle, une sorte de boucle, hein. Je suis élu et j'ai sur ce qui fera les domaines.
Il y a un sentiment de... On revient à ce que je te disais tout à l'heure sur le problème en France du politique, de l'homme politique, c'est qu'on fait carrière dans la politique.
Cumule des mandats.
C'est un vrai problème parce que c'est... Bon, après ça, je veux pas non plus... pour avoir côtoyé des politiques et c'est une prise de temps, c'est moi j'ai envie pas du tout la vie de l'homme politique, c'est un truc sordide.
C'est pas sordide,
le problème c'est qu'il n'y a pas assez de brassage, en tout cas dans les brassages sociaux, quoi. Il y a mais pas assez, quoi.
Il y a
un début de brassage générationnel par la force des choses, quoi,
mais
ça change pas vraiment non plus le...
Mais c'est pas un brassage comme tu disais, même économique, comme tu disais, d'ailleurs il y a pas de représentant de la vie,
il y a peu d'entrepreneurs, il y a une surreprésentation des avocats, médecin, profession libre, enfin voilà, c'est surtout ça. Enfin, moi, c'est le sentiment que ça me donne, quoi. Et surtout qui sortent toujours des mêmes, un peu les mêmes, qui ont le même parcours, hein, de grandes écoles. Et... c'est bien, mais ça manque de renouveau.
Alors, donc, quand tu dis dans ton blog, puisque ça a été un peu le sujet, quand tu dis tout est politique. Est-ce que finalement, avant d'aller après dans le détail, il faut pas se poser la question, mais qu'est-ce que le politique si finalement on n'a pas la main sur la façon même que les citoyens ont de pouvoir s'approprier la politique.
C'est pour ça que j'ai choisi ce nom, hein. C'est-à-dire que tout est politique. Moi, c'était pas tellement pour parler de la vie politique. C'était un message. C'est un message d'ailleurs de 68. C'est-à-dire que c'est un message pour leur dire que tout. Enfin, moi, un truc qui me désole, c'est là on parle d'initiatives citoyennes, de référendum. Mais... moi, j'ai des conversations avec plein de gens de mon âge, ils se contrefoutent de la politique, ils se contrefoutent des problèmes sociaux, ils savent pas ce que c'est que l'ANI, ils savent pas que Cahuzac, ils savent vaguement ce que c'est. C'est surtout des gens comme ça que je rencontre, hein. On est en train de se tripoter dans le monde des idées, mais le problème, c'est qu'on part avec un déficit, mais colossal, quoi. autour de nous, qui vivent, par contre, les gens sont confrontés à la merde, ça, ils sont mal payés, ils sont maltraités, ils ont plein de galères, ils ne...
Ils n'ont pas eu le temps aussi.
Il y a une question de temps, il y a une question de machin. Moi, j'étais longtemps comme ça d'ailleurs. Puis on en revient toujours au fameux à la télé plus le crédit immobilier qui ont bien. hop là, une fois que t'es là-dedans, 4 heures de télé plus le crédit à payer, qu'est-ce que tu en as à foutre de la politique ? Qu'est-ce que tu veux changer aux choses, puisque tu ne veux effectivement plus rien changer, puisque tu dois rembourser.
T'as pas le temps.
Et puis voilà, puis le reste du temps, t'as envie de te détendre et t'as pas envie de te prendre la tête, quoi.
Ouais, mais pourtant, les causes sont là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait pas cet effort, elles resteront là. Et même cause, mêmes effets.
Je sais plus absolument plus pourquoi je disais ça, quoi, mais on part sur le tout est politique. Moi, ce message était de dire la moindre des choses qui vous arrive, la moindre la façon dont une émission est présentée
même, je sais pas, comme, l'information est hiérarchisée dans les journaux, c'est politique. C'est politique. Que ce soit conscient ou pas de la part des gens qui le font, ça l'est quand même.
Oui.
Je crois pas, je crois plus à l'objectivité.
Oui, c'est pas objectif.
Voilà, parce qu'il y a toujours le prisme, le déterminisme social. Enfin, il y a toujours la classe sociale qui parle. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un environnement.
Le point de vue de la classe sociale, qui est pas forcément d'ailleurs.
Et le problème, c'est comme ils viennent tous du même monde.
Là aussi,
à tous, je ne sais pas plus, mais bon, c'est quand même, il y a quand même quelque chose qui se dessine.
Il y a un effet de résonance. Il y a un effet de résonance.
Voilà, ils ont tendance, même si je pense une fois de plus, c'est pas une question de stratégie ou truc, c'est des trucs qui se mettent en place naturellement. Et ça influe, comme la télé est devenue. Maintenant, ça change un peu, il y a Internet, Internet.
Ça manque de mixité, en fait.
Ça influe inévitablement sur les récepteurs. Les récepteurs, c'est nous. Quand on te balance 4 heures par jour du François Langlais, de la dette, c'est pas bien, du machin, du. Voilà, qu'est-ce que tu sors, bah tu dis ah ouais alors donc ah oui alors Mélenchon donc il est antisémite la dette il faut la rembourser oui il faut travailler pour rien parce que sinon il faut qu'on accepte de baisser nos salaires, enfin, tu vois, alors je schématise, mais parce que même quand on lutte contre ça, même quand tu le sais à force contre le masque, on te répète, on te le répète, finis par l'accepter.
Oui, parce qu'en plus, il y a une certaine construction logique dedans, les choses se lient plus ou moins, donc dans l'esprit, ça devient causal, et on ne voit pas une autre façon d'appréhender cette causalité.
On te crée un univers, on te définit un univers.
Et logique.
Qui a sa logique.
Bien sûr.
Et tu te balades dedans, et on te dit, si tu veux sortir, on te dit, non, il n'y a pas d'alternative.
Ça me fait penser, récemment, à propos de la dette, il y a un gars qui me dit, non mais parce que je dis non mais la dette, non il n'y a pas de raison que la monnaie soit basée sur une dette. J'ai dit mais pourtant les gens qui ont créé les biens qu'on voit aujourd'hui, etc., ils se sont bien endettés pour ça, il faut bien rembourser. Mais je lui dis pourquoi tu veux rembourser des morts? Parce que tu dis les gens qui ont fait ça ils sont morts. Donc je veux dire ceux qui ont créé l'essentiel de ce qui existe aujourd'hui ils sont morts. Je veux dire ils sont morts pour... Je donne souvent cette idée, c'est de voir dans le temps, les gens qui étaient vivants en 1929 en France, il n'y en a plus un qui est vivant aujourd'hui.
1929.
Ouais. Non, mais très peu. C'est 80 ans et quelques. Non, mais il y en a très peu. Je veux dire, c'est. Et si 80 ans ne suffit pas, on peut pousser jusqu'à 120 ans. Je veux dire, donc on n'a qu'à reculer de 1929.
Oui, tu veux dire qu'on n'a pas à payer pour la dette des dettes contractées par ces gens. Oui.
Et ben, disons que voilà, ils sont peut-être endettés à l'époque. Je veux dire, c'est possible. Mais je veux dire, à un moment donné, ça ne tient pas devant le renouvellement des générations. Un nouveau-né ne doit rien à personne. Donc on ne peut pas lui demander de payer un truc pour lequel il a pas du tout.
Là t'as pas tort, et en fait le vrai truc c'est que progressivement on te fait accepter ça, c'est-à-dire qu'effectivement parce qu'on avait vu je crois qu'il y a ça au Japon, tu parlais d'endetter progressivement, on y vient parce que l'exemple typique qu'on te met pour
le fils responsable
pour t'expliquer c'est un exemple que l'anglais, enfin c'est un exemple souvent qu'on te sort pour t'expliquer la dette, on te dit chaque nouveau-né naît avec une dette de machin,
mais non
mais c'est un exemple qu'on te prend souvent,
oui mais c'est faux,
mais ça influe la façon
de penser, bien sûr
mais le truc c'est que je
crois cette idée, je veux dire un nouveau-né naît libre de dette, c'est bien sûr. Un nouveau-né, le dit pour nos auditeurs. Non, mais on va le dire nous pour nos auditeurs, parce que l'anglais il est bien gentil, mais nous on aura plus d'auditeurs que l'anglais. Parce qu'on va être écouté pendant 80 ans, et ceux qui vont nous entendre dans 80 ans auront l'information. Un nouveau-né, on vous le dit clairement, là, un nouveau-né il naît libre de dette. Hein. Il est entièrement libre. Voilà, donc il doit rien à personne.
Non, mais après ça on peut discuter.
Et au contraire, on lui doit quelque chose, puisque si on lui donne pas de quoi être nourri, etc., il va mourir. Donc il faut, si on le met au nombre, il faut lui donner un minimum pour atteindre l'âge de, je dirais, de raison, et sa capacité à être autonome et non pas esclavagisé par un autre.
Non, mais je pense qu'un des grands rêves des banquiers, c'est effectivement d'endetter sur des bien au niveau de la dette publique que des dettes privées, d'endetter sur plusieurs générations. Si une fois que ce verrou saute, le verrou des dettes se transmettre de génération à une autre. Alors là.
Oui, mais c'est
une nouvelle perspective qui s'ouvre.
Oui, mais c'est justement, alors ça, je pense que c'est dû au fait qu'on considère l'État comme une entité existante, indépendamment des individus qui le constituent. C'est-à-dire que si on regarde que c'est des individus qui constituent un État, et c'est pas l'État, n'existe pas en tant que tel, quand des individus sont tous morts et remplacés par une génération suivante, on peut plus parler véritablement du même État.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais on en revient.
Donc, dans le temps, l'État, à la fois.
On en revient toujours au problème.
Il y a une certaine continuité, mais il y a aussi.
Il y a une certaine continuité, une fois de plus, on en revient.
Une certaine continuité.
Les infrastructures, l'éducation, le savoir, la santé, le fait même que tu viennes au monde, t'es quand même le fruit.
Oui, mais cette continuité, c'est surtout le devoir non pas d'endetter la génération qui suit, mais de lui transmettre, au contraire, le capital, et pas de l'endetter. C'est donc une transmission qui doit se faire.
il faut pas il faut que je sois, enfin le problème c'est que je te parlais de cet exemple du bébé avec le, je vois très bien le logo là au, avec le mot mais le chiffre 20 000 euros,
ouais.
C'est que ça crée une fois de plus un sentiment de culpabilité quoi.
Oui,
et sur l'histoire de la dette, enfin de la dette publique, bon, ça tu le sais mieux que moi, enfin je veux dire, c'est, on paye essentiellement des intérêts,
on se demande bien, enfin, où c'est qui a fauté le bébé quoi.
Non, je veux dire, voilà quoi, sur le rapport entre le mot mais la dette, il est quand même bizarre quoi.
Mais oui c'est plus que bizarre, oui.
Donc voilà, mais c'est un processus, moi je le vois comme un processus de, une fois de plus c'est pas une stratégie parce que je te dis je pense qu'ils sont tous mais c'est c'est vraiment ça, c'est fort comme image, comme marqueur, ouais, comme ouais, marqueur ouais, et comme ouais, que, ouais. Comme truc qui te marque, le qui te manipule quoi.
Ouais, mais donc il faut faire quelque chose, il faut contrer ça,
dire, bah on entend bien ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation populaire, sur la, effectivement le fait de recréer du débat, effectivement ça passe moins, comme
tu et puis disais, montrer d'autres images dans le temps, les gens qui prétendent être le bébé ils vont mourir avant lui, je veux dire, donc il faudrait montrer leur tombe et montrer que le gars lui sera vivant alors que les autres seront morts et enterrés. Il faut qu'ils arrêtent de prétendre qu'ils ont enfin je veux dire ils réfléchissent, t'as l'impression qu'il y a une réflexion comme si ces gens-là étaient éternels et qu'ils pouvaient continuer à vivre non, je veux dire que quand on commence à constater que les, je veux dire, on commence à être âgé et qu'on commence à voir la jeunesse pousser après nous, alors faut un certain âge, parce que quand on est jeune on voit pas la jeunesse pousser après nous, on regarde plutôt devant soi, bon ouais, mais il faut vite, considérer que ces gens-là ne nous doivent certainement rien, c'est l'inverse. C'est nous qui devons leur transmettre, et eux-mêmes, ils devront transmettre à leurs propres descendants. Donc si on réfléchit comme ça, c'est pas l'endettement qu'il faut voir, c'est le don, c'est la transmission. Nous devons transmettre. En fait, c'est nous qui sommes passés, je dirais, un certain âge, passés, j'ai envie de dire, moi, la demi-espérance de vie, en gros, passés 40 ou 50 ans, on doit commencer, déjà, à ne plus penser à notre avenir, il est bouché, c'est moi, je veux dire, il est mort, c'est le cas de le dire.
Oh, tu es bien négatif.
Transmettre, non mais il faut transmettre, transmettre c'est bien aussi, transmettre, c'est important de transmettre. Si on veut une continuité, il faut que ce qu'on a fait nous puisse justement être poursuivi par d'autres, et donc pour ça, il faut commencer déjà à transmettre. Il ne faut pas le faire une fois, au dernier moment quand on meurt, il faut le faire petit à petit. D'ailleurs, c'est moins pénible à faire, si c'est fait petit à petit.
Et puis c'est surtout plus possible, parce qu'une fois que t'es mort, tu peux plus faire grand-chose.
Oui, non, mais si on attend le dernier moment pour transmettre, je veux dire, c'est souvent un peu trop tard.
Hein. Ouais, bah moi,
ça se fait pas dans de bonnes conditions.
C'est un peu... voilà, c'est... Une fois de plus, on tend vers le philosophique, quoi, mais...
Oui, mais à un moment donné, on est obligé. Si on part au fondement politique, il y a le fondement de la République qui se pose, qui est la question. Est-ce que même les droits de l'homme, il faudrait pas les réviser?
Alors là...
Mais t'as vu qu'en 48, pour parler de ça quand même, ils ont quand même rajouté le droit au travail. Il y a Götz Werner, qui est un entrepreneur qui d'ailleurs défend le revenu de base, qui disait quelque chose d'assez vrai. Il dit, mais il n'y a pas de droit à être obligé de faire un truc. Il n'y a pas de droit à être obligé d'eux, parce que le travail, c'est quand même une obligation d'eux.
Ouais, c'est particulier.
Il n'y a pas de droit à être... Ils ont rajouté les droits d'homme, le droit au travail, mais il n'y a pas de droit au travail.
Non,
le
mais
droit...
ça a été aussi une époque où... Enfin, je pense que c'est plutôt lié aux femmes, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'était une époque où...
Oui, mais le droit à avoir un revenu, alors qu'il soit revenu sous...
C'est plutôt sur le côté d'émancipation, c'était pour protéger... Enfin, pour donner... c'était pour défendre les femmes, je pense. Hein. Enfin,
bien sûr, comme ça, quoi. Sans doute, parce qu'à l'époque, bon, le travail était une évidence pour 95% des gens, il y avait 5% de patrons, et bon,
oui, non, mais les femmes, 1% de patrons... Il y avait 80... peu de femmes qui travaillaient.
Et quoi. Peu de femmes qui travaillaient, c'est vrai, exact. Oui. Oui, d'accord, mais n'empêche que c'est quand même le travail, il y a une notion d'obligation dedans qui ne va pas avec la notion de droit. Je veux dire, ça ne va pas, quoi. Devoir, ça peut être un devoir à la limite, mais donc c'est pas un droit, c'est pas les droits de l'homme. Alors, le devoir de l'homme, peut-être, il faudrait voir, mais.
Il y a un droit qui est plus important, c'est le droit du travail.
Mais ça, c'est un autre. Voilà, le droit du travail, ça, c'est encore
mais,
un.
Voilà,
il n'y a pas de droit au travail, mais le droit du travail, c'est-à-dire que si on veut faire travailler quelqu'un, effectivement, alors là, du coup, on l'oblige, puisqu'on lui demande de remplir un contrat, de remplir des conditions, on l'oblige, donc à partir de là, on peut pas l'obliger à n'importe quoi. Donc, c'est normal qu'il y ait des règles, bien sûr. Mais d'ailleurs, il y avait, pour parler, non mais si on regarde historiquement, il y avait aussi un droit de l'esclave. Je veux dire, on ne pouvait pas non plus faire tout à fait n'importe quoi avec les esclaves. Il y avait quand même un code.
Un peu de plus,
Non, mais il y avait un code. Hein. Normalement, ils ne pouvaient pas faire tout à fait n'importe quoi. Beaucoup de choses, ils pouvaient faire, mais pas n'importe quoi.
D'accord.
Il y avait quand même certaines limites qu'ils n'étaient pas censés dépasser. Hein. Non, mais pour moi, le travail, c'est que le reste de l'esclavage. On en est encore
là. Non, mais il y a de toute façon... Moi, je suis partagé, parce que je te dis, c'est le travail, on associe trop sous, enfin, on associe le travail et le salariat.
Dans oui, oui, voilà,
c'est
sûr,
ça le problème.
Bien sûr,
là,
bien
en
sûr,
fait.
Bien sûr, bien sûr.
Même si au-delà de ça, on peut, enfin moi, c'est, le salarié n'est pas mon truc, mais on peut. C'est important aussi que le salarié ne soit pas transformé progressivement en esclave. C'est-à-dire que le salarié, il faut qu'il soit bien payé, qu'il ait des droits, qu'il puisse avoir conscience de ce qu'il fait. Là, actuellement, effectivement, parce que c'est ainsi. Moi, j'ai fait des vidéos pour critiquer le salariat et tout, et c'est un peu une connerie, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs, il y a des gens qui sont faits pour pas travailler, il y a des gens qui sont faits pour être salariés. Voilà. La société idéale, c'est essayer de brider personne et de pouvoir donner l'opportunité à tout le monde d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a à faire. Mais, il est vrai, ceci étant posé, c'est-à-dire que les mecs qui en prennent quand même plein la tronche, là, c'est quand même les salariés, pas, à mon sens. Hein. Mmh. On dit qu'ils sont protégés, alors on va toujours avec le côté un peu, oui, mais de quoi vous plaignez, vous êtes salariés. Je sais pas, moi, je vois autour de moi de plus en plus de salariés qui sont. Qui ont en fait tout pour être bien, mais qui sont de moins en moins bien parce qu'ils sont. Ils sont juste soumis à des pressions de mal. Et ça, c'est vrai en France, surtout, parce que je l'ai moins vu en Angleterre. Mmh. Où il y a vraiment. Alors, où il y a une surinvestissement dans le surcharge de travail, pas de travail, mais de mission, d'impératif. Ouais, grosso modo, souvent en France, un salarié français fait le boulot de 5. Quoi. C'est pour ça qu'on dit que les Français, d'ailleurs, sont très productifs, et il y a des études qui le prouvent. Ouais, parce qu'effectivement, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont. Ils font pas semblant de bosser. Quoi.
Ouais.
Et voilà, et à côté de ça, t'as pas vraiment de récompense, t'as pas vraiment d'augmentation, t'as pas de perspective. En plus maintenant ouais. Alors, il y avait quand même un avantage, c'est que tu avais quand même un code du travail, quelque chose, voilà, ouais. Tu savais qu'il y avait une retraite machin et tout, ouais. Et tout ça progressivement on est en train de te le désinguer, quoi.
Ouais. Donc oui, c'est vraiment quand tu tiens plus la monnaie.
Alors, après ça on dit ouais les Français ont pas le moral, bah ouais ils ont ouais, pas le moral quoi.
Ouais, mais tu tiens plus ta monnaie, tu peux plus, donc puisque c'est la monnaie maintenant elle est à Francfort, elle est plus à Paris, hein. faut voir ça aussi, hein. Je veux dire, quand tu as lâché le franc et que tu partages avec les autres, ben tu peux plus faire ce que tu veux, c'est ça aussi, hein. Donc tu peux pas. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui tu peux pas. Les Allemands s'ils sont contre, ils sont contre.
Mais
t'es pas majoritaire.
Mais on sort pas de ça, c'est-à-dire que on en revient à ce qu'on disait au début. Hein, c'est, on va, au lieu de...
Alors comment tu le sens, alors pour conclure, comment tu le sens, donc tout est politique, ok, on a quand même fait le tour de beaucoup de thèmes, on a parlé logement, on a parlé politique, on a parlé la taxe sur les allocations universelles, on a parlé des niches. Fiscale, enfin tout le bordel.
Caution familiale, esclave.
Caution familiale, esclavage, on a tout fait. Refondation politique. Et puis, comment toi qui es chroniqueur de guerre néolibéral, tu as parlé tout à l'heure de t'attends, tu leur laisses encore fin 2014, et qu'est-ce qui se passe? Alors comment tu vois la suite et comment tu vois les possibilités de réagir, de faire quelque chose, peut-être pas au niveau politique habituel du terme, mais peut-être à un niveau métapolitique, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi?
Alors, il y a plusieurs questions.
Comment tu vois les choses?
Comment je vois les choses
Pour conclure,
sur ce gouvernement actuel, je suis vraiment perplexe. Je pense qu'il y aura un moment ou un autre, il sera obligé de se réinventer de toute façon. Alors je sais pas dans quel sens ça ira. Moi j'étais parmi ceux qui disaient un peu comme Todd, ouais il y aura un Hollande révolutionnaire et tout. Là je le vois pas.
Tu le sens pas?
J'en sais rien parce que je veux pas jouer aux prédictions machin. Là je le vois pas actuellement. Je dis pas que ça arrivera pas, mais je le vois pas. Maintenant après ça j'attends les résultats, parce que ça se trouve, je te dis, si effectivement il arrive, moi je suis surtout sur les chiffres du chômage, quoi, et puis sur l'humeur des gens, on verra, je serai assez donc je vois pas. Alors après ça c'est pour lui, donc après ça je te dis, mais j'attends, je lui donne deux ans et demi, un peu comme, de toute façon moi je pense qu'on va le savoir, on va le sentir, c'est un peu comme Sarkozy, hein. C'est-à-dire que Sarkozy en mi-2010 quand il a commencé à sortir son truc sur Grenoble, là, son discours de Grenoble, tu sentais que c'était le champ du cygne, moi je savais à ce moment-là qu'il allait perdre, la prochaine élection, donc c'est 2 ans et demi, c'est le milieu du quinquennat, donc là ça vient fin 2014, donc on verra. Mais après ça si c'est effectivement comme tu dis, si c'est pour faire des alternances et qu'on ait la même politique, ça, on se fout de savoir qui est. Je préfère quand même que ce soit Hollande que Sarkozy. Hein. Ouais. Mais le fait est qu'actuellement, la Hollande, à mon sens, va peut-être plus loin sur certains points. Je veux dire, Sarko n'aurait pas fait ça. Enfin, il aurait fait ça, il y aurait eu 400 000 personnes dans la rue. Là, je suis allé au manif, il y avait 20 000 personnes. Et il y avait pas. Il est fort, Hollande, parce qu'il a. C'est quelqu'un d'assez sympathique. Il ment pas là-dessus. Et t'arrives pas à le détester. Et pour l'instant, la France ne le déteste pas. Malgré tout ce qu'il fait, malgré tout ce qu'il fait.
C'est quand même 27%.
Non, mais il n'y a pas. C'est pas. C'est sur sa politique. Ouais. À la limite, c'est assez sain ce qui se passe actuellement. Ouais. C'est que les gens ne sont pas contents de sa politique. C'est assez sain.
Ouais.
C'est sain. Il n'y a pas de détestation de sa personne.
Ouais,
pour le moment.
C'est autre chose. Ouais,
pour le moment.
C'est la politique.
Ça peut venir.
Voilà. Pas la
non, mais vraiment, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que Sarkozy, c'était dès le matin. Je dis, on le détestait avant. C'était. On savait que la politique allait suivre. Tu vois, on savait que les gens allaient prendre conscience. Mais on savait. Enfin, mais bon, il y avait un côté individu qui a joué en notre faveur parce que.
D'accord. Là, tu sens que l'individu pourrait faire quelque chose.
Voilà, et puis il est bon. Il peut, je te dis, il va se réinventer. De toute façon, il va être obligé de se réinventer. C'est obligatoire. Il va être obligé. Il ne peut pas rester comme ça. Donc, je sais pas, est-ce qu'il va nous faire du super Merkel ?
Il s'entoure autrement déjà aussi.
Il y a ça. Bon, à mon avis, c'est un
gros problème. C'est lui qui vend la vie à cette musique.
Je sais, bon, non, j'en sais rien, mais comment qui est un peu plus d'autres économistes, un peu de tourne cloche, un peu différent, tu vois. Là, je crois que le problème de cette fonction à l'Elysée, la 5ème République, c'est que à chaque fois, c'est le même principe, c'est la bunkerisation, et les mecs s'enferment dans un truc, ils ont de plus en plus peur de sortir, de, tu vois. Hollande, c'était un mec, on va dire, qui était un peu aérien, léger, déconneur, machin, maintenant, c'est devenu un mec. Terne, complètement, toi, assez refermé, assez. Bon, il veut un quart. Je trouve ça assez. Comment ? Dommage. Ce que je trouve dommageable, surtout sa politique, c'est. Voilà, je trouve un peu. Je trouve enfermé. Il est enfermé dans un mode de fonctionnement avec un entourage et. Voilà. C'est une déception.
D'accord.
Mais bon, je te dis, je donne un an et demi.
Et là, ici, ça marche pas ?
Ah bah si ça marche pas, à mon avis, on va ça fait longtemps qu'on en parle et que on dit ouais, le mot FN va monter, machin. Je pense qu'on va de toute façon vers quelque chose de fort après, si ça marche pas. Je parle même pas politique ou quoi, mais vraiment une.
Mets à niveau alors.
Je parle pas en tant que personne politique qui passe. Mais oui, on va vers une droite de toute façon si le socialisme, le social-libéralisme est un échec, comme à mon avis il est parti pour être un échec, parce que je vois pas de. Enfin, c'est les mêmes méthodes qu'on refait, donc je vois pas en quoi ça changerait la donne. On va vers un truc beaucoup plus hard, quoi. Hein, où Sarkozy soudainement nous paraîtra avoir été un enfant de cœur.
Ouais.
J'ai peur de ça, moi. J'ai peur de ça. J'ai pas peur, mais je suis résolument optimiste. Mais, mais quand je vois ce qui se passe actuellement avec la montée je sais pas, il y a une montée d'obscurantisme dans ce pays assez hallucinante. Enfin, je vois là, c'est peut-être des gens qui font une poignée d'individus qui font beaucoup parler d'eux, mais bon, je sais pas, je vois des trucs. Je sais pas, des mecs qui sont tabassés, résurgence du religieux, enfin moi c'est des trucs qui me font un peu peur, quoi.
Ceci dit, ça a été poussé, hein.
Il n'est pas pour. Ouais, mais enfin voilà, parce que là on a de toute façon on a un essoufflement du paysage politique qui est flagrant. La gauche se réinvente pas, enfin le Parti socialiste, enfin le parti au pouvoir, enfin le gouvernement ne se réinvente pas. L'UMP, ils savent plus où ils sont. Le FN, ils font croire qu'ils sont l'alternative, mais ils sont pas, ils sont rien. Le Front de Gauche, qui est à fond dans l'opposition sur tout, contre tout le monde, assez virulent. Donc je sais pas, c'est un paysage qui est pas vraiment stimulant là. Des fois, tu vois, je me dis, tout est politique, mais tu vois, de plus en plus, je me dis, mais j'ai presque envie d'ouvrir un bloc cuisine. Là, tu vois, vraiment, y a plus rien qui te.
D'accord.
Ça
t'attends un dernier sursaut, ou alors le grand saut vers l'inconnu, quoi.
Pour moi, déjà, Hollande était une façon. C'est-à-dire que pour moi, dans mon esprit, il y a 2-3 ans, Hollande, enfin, il y a 2 ans, Hollande était un peu le. Je me suis dit, c'est un peu le. C'est ce qu'il y a. En fait, on était au bout du système, avec Sarkozy, il me semblait qu'on était déjà au bout du système, finalement, Hollande allait arriver pour colmater tout le machin.
Mais il colmate pas grand-chose.
Il colmate rien, voilà.
Bon, mais on va terminer là sur cette
note super positive.
Cette note super positive, le blog cuisine lancé par Sébusset très bientôt. Tout est cuisine, ça va pas tarder. Et donc merci Sébusset pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Alors on a explosé le compteur puisqu'on a fait une émission d'une heure et demie quasiment.
Sérieux ?
Mais c'est bien. Écoutez, on espère que ça vous a plu. Puis je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine émission de Monnaie Libre. À bientôt. Et je vous laisse bien sûr avec notre générique
No More Dreams, The Nighter. Au revoir.